Bon midi tout le monde, midi pile, l'émission dans jazz qui commence avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte. Va suivre le retour de Denis Gravel avec Denis, Véro et Audrey, je suis excité comme un enfant. Kevin Owens, le lutteur de la WWE, qui a fait son retour après 17 mois d'absence, blessure au cou. On lui a scindé deux vertèbres ensemble. Il a fait son retour à SummerSlam, il a gagné son combat. En entrevue à 17h avec Denis Gravel.
Tu vas être à l'écoute, c'est sûr.
Et KO! C'est écœurant.
Hey, c'est OK, vraiment... c'est malade, ça.
Oh, non, c'est complètement malade. Il va être très reconnaissant de beaucoup de gens. J'ai entendu son entrevue qu'il a donnée à la WWE après le spectacle de SummerSlam de dimanche. Alors, non, soyez à l'écoute. Kevin Owens!
Et même si vous n'êtes pas nécessairement des fans de lutte, c'est que lui, il a toute une histoire. Fait que ça vaut la peine d'être à l'écoute, que vous écoutez la lutte ou pas. Là. Mettons, moi, j'écoute pas la lutte, mais son histoire, c'est inspirant, maudit.
Vraiment inspirante. Histoire tellement inspirante. Et histoire qui a commencé ici, à Limoilou, avec la NSPW. C'est vrai, hein? Un produit de Québec. Ben, il vient de Montréal, mais
oui,
il a fait...
Le...
C'est ça, exactement. Alors, Kevin Owens sera à l'antenne à 17h dans Gravel dans le retour. J'étais nerveux, j'en parlais à Alex Laramé, lui qui dit « Ah, la lutte s'est arrangée, ça m'intéresse pas. » Ben, arrête donc. C'est ben trop le fun, la lutte. C'est mon téléroman. C'est ma façon de me divertir. Tu sais, la façon de mettre le cerveau à off, là, tout le monde a besoin de ça. Ben, moi, c'est la lutte.
Ça, c'est la tienne. Moi, je suis vrai. Tu vois, je suis pas capable, la lutte, moi. Je suis incapable, je sais pas pourquoi.
Mais je comprends les gens qui sont pas capables.
Mais je comprends. Tu sais, au début, j'avais un peu de jugement envers vous autres, Jeff, faut que je l'avoue. Puis quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, puis tu sais, de regarder un peu, là, c'est un spectacle.
Oui, oui. Ouais.
Mais tu sais que c'est pas vrai ce
qui
se passe.
Non, exactement.
Mais ils construisent un récit, ils font un show.
Le combat sont spectaculaires aussi.
C'est ça, exactement. Puis ça reste que même si c'est pas vrai, ce qu'ils font sur le ring, c'est des athlètes. Là.
Ah,
c'est impressionnant quand même.
Vraiment, vraiment exceptionnel. Ça demande énormément d'entraînement. Mylène qui écrit « Denis doit capoter, pas pire aussi ». Oui, oui, j'ai parlé avec Audrey. Denis n'était pas encore dans les parages lorsque je suis entré en studio. Et Audrey me disait il est comme un enfant. Donc, ça va être le fun pour le chum Denis qui revient de vacances de parler avec KO. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous texter. Faites-le, vous le faites en grand nombre depuis le début de la semaine. C'est super intéressant d'avoir vos commentaires. Je vous rappelle également, blvd.fm, c'est notre web radio. C'est nos meilleurs moments qui s'y retrouvent aussi. Et je veux vous mentionner évidemment l'application Boulevard 101 qui est disponible sur App Store et Google Play Store. Vous allez vous déplacer cet été, vous allez être au terrain de camping, vous allez être sur la route. C'est la meilleure façon de nous écouter. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon aller-retour à Toronto. Joe qui nous écrit, je me demandais parce que je connais pas ça, est-ce que les gars qui pratiquent ensemble ou c'est vraiment aléatoire? C'est juste vu qu'ils connaissent comment ça fonctionne. La lutte, sont capables un peu de faire n'importe quoi, n'importe quand. Ouais, Joe, pour expliquer puis expliquer aux auditeurs, c'est que dans le fond, oui, il y a un script de combat qui est écrit, mais c'est vraiment pour les moments forts du combat. Je vais donner un exemple. Roman Reigns, Seth Rollins à la finale du SummerSlam. Ben, ils se sont pitchés un et l'autre à travers de table. Donc ça, t'es, c'est scripté, c'est à tel moment
tu sais que
dans
ça
le
s'en
combat.
Vient.
Bon, t'es, tu sais comment le combat va finir, tout ça. Mais il y a des parties du combat qui sont pas scriptées. Et là, c'est les lutteurs, selon comment sont à l'aise de travailler ensemble, qui vont faire des prises.
Mais est-ce qu'ils vont préparer le show ensemble avant?
Oui,
ou c'est
exactement. Ils vont,
sur
non,
le
ils vont le pratiquer
non, c'est ça,
avant.
Exact.
Par contre, il y a des choses qui vont improviser des fois parce que là, ils se rendent compte « Hein, ça serait bien meilleur, je te ferais ça même. » Et c'est pour ça que si vous êtes attentif quand vous écoutez la lutte professionnelle, les gars, souvent, quand exemple, sont dans le coin, puis là, il y en a un qui frappe sur l'autre, ils lui parlent en même temps dans l'oreille.
OK, ils improvisent. Ça,
ouais.
Tu vois, je ne savais pas qu'ils improvisaient
exactement.
En direct. Là, que... Mais ça, c'est quand même fou parce que on ne le voit pas, on ne le réalise pas nécessairement, mais toutes les prises, il faut que ce soit ultra précis pour pas que les gars se blessent.
Exactement.
Fait que de pouvoir improviser de même, puis que les gars se comprennent rapidement, puis que l'autre soit capable de... OK, j'étais pas au courant de
ça. Puis il y a l'arbitre qui a toujours un petit écouteur, et lui aussi, l'arbitre, si les scripteurs ou les gens qui s'occupent du show se rendent compte, hey, les gars sont en train d'oublier de défoncer à la table, mettons. Ben là, ils vont dire à l'arbitre, hey, dis au gars que c'est l'heure de la table. Puis là, pouf, l'arbitre va glisser un petit mot.
OK, c'est vraiment organisé, c'est arrangé. Oui. Okay,
exactement. Okay. Donc, mais c'est des athlètes exceptionnels. T'sais, Kevin Owens, il pèse quoi? 250, 260 livres. Il monte sur un troisième câble comme s'il en pesait 115, puis il fait un front flip que je suis pas capable de faire. Fait que c'est des athlètes vraiment exceptionnels. Alors, ne manquez pas ça. Ça va être très, 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 très intéressant. Sinon, tant qu'à y être, Mathias, commençons avec les manchettes. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Deux jeunes sont décédés du côté de Laval après une poursuite policière. Ce qui s'est passé, c'est que vers 1h20 du matin, les policiers du service de police de Laval ont voulu intercepter un véhicule qui roulait sans plaque d'immatriculation. Le conducteur qui a mis des gaz au bout pour fuir les policiers qui ont rapidement abandonné la poursuite parce qu'on s'entend qu'on était quand même en ville, on n'était pas en campagne, donc pour des raisons de sécurité. Quelques minutes plus tard, le véhicule qui a terminé sa course dans la façade d'un centre de conditionnement physique situé sur le boulevard des Laurentides, le conducteur qui a perdu la vie, une passagère de 19 ans qui a également succombé à ses blessures et un jeune homme de 19 ans qui se bat présentement entre la vie et la mort. Un homme de 29 ans vient tout juste d'être arrêté en lien avec le meurtre de Nicolas Audet à Saint-Isidore en 2022. Ça vous ravive peut-être des souvenirs, mais cet homme-là, il y a de ça 4 ans, avait été retrouvé mort dans sa demeure. Par la suite, quelques semaines après, son ex-conjointe s'était enfuie du côté de l'Ontario avec l'enfant qu'elle avait eu avec Nicolas Audet, un jeune enfant de 18 ans. Elle était accompagnée d'un complice. On les avait retrouvés tous les deux jours plus tard, et c'est finalement son complice à ce moment-là, Étienne Gourde, qui a été arrêté par la police, qui est présentement accusé du meurtre au premier degré de Nicolas Audet.
J'ai vraiment hâte au procès de voir comment ils ont réussi en 4 ans. Parce que, tu sais, dès le départ, ils ont dit, OK, c'est cet homme-là le suspect, mais il n'y avait pas la preuve tangible. Comment ils ont réussi? Ça m'intéresse tellement, ce genre d'histoire-là.
Et dans ce procès-là, l'une des choses qui est très particulière, c'est que l'ex-conjointe de Nicolas, qui aurait été le témoin numéro un dans cette affaire, autant dans l'enquête que devant les tribunaux, cette femme-là est décédée en 2023 dans un accident de voiture. Donc ça, ça vient complètement compliquer l'affaire parce que c'était la témoin clé. C'est elle un peu qui a la solution réelle de ce qui s'est passé, cet homme-là, pourquoi il a fait du mal à l'autre homme, pourquoi elle s'est sauvée avec.
Hey, pauvre enfant pris là-dedans, il avait 18 mois au moment des faits, donc il est rendu à peu près à 5 ans. Ouais, il est rendu à 5 ans. J'espère qu'il est en sécurité et qu'il est avec une famille qui l'aime.
Et je termine avec les demandes qui commencent déjà à arriver en vue de la campagne électorale provinciale. C'est l'Association des médecins psychiatres du Québec qui ont demandé aux partis politiques de faire de la santé mentale une priorité dans leur plateforme. Ce qu'on décrit, c'est un portrait préoccupant du côté de la santé mentale des Québécois. Selon le regroupement, près d'une personne sur 5 souffre d'un trouble de santé mentale chaque année, donc 20% des Québécois.
Et vois-tu, ça vient de se confirmer. On va avoir la docteure Gamache qui est la présidente de cette association. Donc, elle sera avec nous aux alentours de 13h20. Vraiment, c'est des demandes très sensées. Je lisais aussi ce matin au niveau de Jeunesse, j'écoute, il y a une augmentation des demandes, surtout en soirée et en nuit. Donc, les problématiques de santé mentale se poursuivent. Puis, je vais en parler par rapport à l'itinérance aussi. Ça fait partie d'une de leurs demandes. Yannick Marceau, qui va être de retour de vacances la semaine prochaine, dit toujours, « Hey, si on n'avait pas fermé Robert Giffard, on n'aurait pas autant d'itinérance. » Je veux poser la question. Je veux en savoir plus là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis mitigé parce que je me dis que pour plusieurs personnes qui étaient à Robert Giffard, ne sont pas nécessairement tombées dans l'itinérance puis ils ont une vie plus active, plus positive. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y en a dans la rue que tabarouette. Les problèmes de santé mentale sont vraiment très, 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 très importants.
Mais en même temps, des établissements comme ça, c'est pas pour rien qu'on les a fermés non plus. Là.
Exactement.
Pour avoir déjà parlé à du monde qui ont travaillé là par le passé, dans certaines ailes, là, les personnes, c'était plus une vie qu'il y avait. Ils étaient enfermés et drogués dans le tapis pour qu'ils soient plus du tout conscients de leur environnement. Donc, ça posait aussi certains problèmes éthiques, j'ai envie de dire.
Ah, ben oui, puis moi, pour avoir travaillé longtemps dans les organismes communautaires, tu sais, il y a des gens qui auraient été à l'époque à Robert Giffard que là, travaillaient 25-30 heures dans l'organisme. On les soutenait. Après ça, s'en allait dans une maison supervisée le soir. Ils étaient également accompagnés. Leur vie est beaucoup plus positive. Ils ont une vie sociale, ils ont des amis. C'est un gros pas par en avant qui a été fait, là, selon moi. Là. Mais c'est pour ça que je veux poser la question à la Dr Gamache.
Mais de faire un effort en santé mentale, c'est intéressant parce que l'itinérance, c'est un enjeu primordial pour toutes les parties, puis ils se sont pas mal tous prononcés. Puis je pense qu'un des enjeux aussi qui va beaucoup revenir, c'est la sécurité. La sécurité dans les rues, que ce soit à Montréal ou ici. Mm-hmm. Puis ça, pour moi, c'est deux enjeux qui découlent directement d'un point commun, la santé mentale qui est en difficulté au Québec.
En effet. Donc, ça va être très intéressant. 13h20, la docteur Gamache qui va être avec nous. À Boulevard, ça. Mathias, faut que je te lève mon chapeau.
Pourquoi?
T'avais raison. Quand je suis revenu de vacances, tu m'as dit, Jeff, check ça. Là, Trump, on est lundi, nous a dit, il y a un accord qui est proche avec l'Iran. Puis mercredi, il va les menacer de bombarder. Ben, quand je me suis levé ce matin, j'ai fait ma revue de presse. Et dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, le gros titre était, et je te lis, Donald Trump menace de frapper l'Iran très fort si le détroit d'Hormuz ne rouvre pas.
Ma boule de cristal a eu raison.
418-971-1021. Puis là, je veux le savoir. Là, êtes-vous tanné d'entendre parler de Donald Trump quand il refait toujours la même chose comme ça?
C'est ça que j'allais dire. Puis ça, je trouve que c'est intéressant dans ce cas-là. Un personnage qui est tellement imprévisible comme ça fait tellement n'importe quoi, mais souvent, qu'il en devient presque prévisible.
Eh bien, c'est ça! Tu sais, moi, tu m'es arrivé avec ça, puis là, j'ai fait « OK, tu sais, en vacances, j'avais décroché, puis je te croyais sur parole, parce que je me dis « Mathias, c'est un gars fiable, il est sur l'actualité, tout le kit. » Mais ce matin, je suis parti à rire aux éclats à 4 heures chez nous dans la cuisine, quand j'ai vu le gros titre en pensant à toi, parce que j'ai dit « Oh my God, c'est vrai! »
Je te niaise pas, Jeff. On a l'impression de vivre dans un épisode de Black Mirror. La semaine dernière, tu sais, nous autres, on couvre l'actualité chaque jour. On baigne là-dedans. La semaine dernière, lundi, je faisais la nouvelle comme quoi Donald Trump et l'Iran négocieraient, selon ce que Trump disait. L'Iran disait « on négocie pas ». Ça, c'est lundi la semaine dernière.
Ouais.
Lundi cette semaine, même nouvelle. Mercredi la semaine passée, Trump qui dit « je vais bombarder l'Iran ». Mercredi cette semaine, Trump qui dit « je vais bombarder l'Iran ».
En plein ça.
Les semaines se répètent.
Hey, exactement. Puis tu sais, ce matin, j'ai dit, Einstein disait « la folie, c'est de faire les mêmes actions et d'espérer un résultat différent ». Mais là, on a Christian qui nous écrit « ouais, Trump fait ça pour manipuler les marchés boursiers, enrichir ses amis ». Ben, tu sais, sais-tu quoi? D'après moi, il y a une part, il y a une très grande part de vérité là-dedans, parce que sinon, il ne referait pas toujours le même stratagème.
Jeff, c'est rendu qu'on n'y même plus.
Mais non,
ce qu'on fait,
ça.
C'est qu'on va vendre ces Truth Social. Si tu payes 100 000 $ par mois, tu vas avoir ces Truth Social d'avance comparé à d'autres.
Exactement.
C'est rendu qu'on s'en cache même plus qu'on utilise ce stratagème-là.
Ah, non, c'est ça. Donc, ça fait aucun sens. On a parlé avec Yvan Klisch, fellow pour le Cerium, spécialiste en énergie, ce matin aux alentours de 8 heures. Ça va être disponible après l'émission sur le blvd.fm. Puis lui, dans sa boule de cristal, il nous a dit « Checkez bien comment ça va finir. Trump n'aura pas le choix. L'Iran va réussir à percevoir un peu d'argent du passage du détroit d'Hormuz. En retour, qu'il va dire « OK, le nucléaire, c'est terminé. » Mais ça va être très dangereux parce que l'Iran va pouvoir financer encore plus les Hezbollah, la Hamas et les Houthis au Yémen. Et ça va être vraiment, si c'est ça, ça va être un deal catastrophique en géopolitique mondiale, puis pour Donald Trump.
Bien, encore une fois, la chanson va se répéter. On commence à connaître l'Iran. On va peut-être réussir à s'entendre comme ça avec Trump en disant on abandonne le nucléaire, mais en échange, on met un paiement. Sauf que dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois ou encore dans un an, Là, on va retomber dans les États-Unis qui disent finalement l'Iran est tout proche d'avoir le nucléaire. Puis
c'est
l'Iran,
vrai, ça.
L'Iran va dire oui, oui, j'abandonne le nucléaire, amenez-nous vos agents nucléaires, on ne va pas les laisser rentrer dans le pays, on va continuer à développer en cachette.
Ben
là.
Oui, exactement.
Fait que c'est comme s'il n'y a aucun moyen censé de régler ce conflit-là.
En plein ça. Donc, on est dans un éternel conflit. On est dans le film Le jour de la marmotte. On devrait l'appeler La semaine de la marmotte,
ouais,
là, avec Donald Trump. C'est vraiment décourageant. En passant, 13h, Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier, va être avec nous. On va parler des profits records des grandes pétrolières. Ça n'a aucun sens. Pendant que nous autres, on a de la misère à arriver à la fin du mois, eux autres, quand ils profitent de la guerre, puis ça coûte milliards de dollars de profits additionnels. Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire? En même temps, si on se tourne vers l'électrique, vers les véhicules électriques, la technologie est-tu fiable? Qu'est-ce qui va m'arriver? Hydro-Québec va-t-il être capable d'absorber toute cette hausse-là également? C'est les questions justement que j'ai pour Louis Beaumier. Puis je sais que c'est des questions que vous posez régulièrement par texto au 418-971-1021. Mathias, tu m'as allumé aussi sur d'autres choses. C'est-à-dire sur le fait que le gouvernement canadien, le gouvernement de Mark Carney du Parti libéral du Canada, veut inscrire dans le registre des projets d'intérêt national le fameux pipeline qui va passer par le nord de la Colombie-Britannique. Donc, ça fait partie de la stratégie. Pourquoi on veut l'inscrire dans les projets d'intérêt national? Bien, c'est parce qu'on n'a pas passé par toute la réglementation environnementale, puis les différentes étapes qu'on doit faire. On peut aller en accélérer. Et là, bien, il y a le Bloc québécois via son porte-parole en environnement et changement climatique, Patrick Bonin, qui a fait plusieurs déclarations. Donc, notamment que c'est un projet pour les pétrolières et pour l'Alberta qui va être financé à même des milliards de dollars d'argent public. On parle de près de 40 milliards et évidemment, les Québécois et Québécoises, on va payer pour ça. Et qui a parlé que c'était justement un projet des plus polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui cause les changements climatiques. Mais là, tu m'as posé la question, tu m'as dit « Hey Jeff, es-tu au Bloc québécois à se positionner sur un projet qui est dans l'ouest du pays? »
Ben moi, je disais ça, puis je me disais, « Hey, crée, moi, je serais en Alberta, puis j'entends, si j'entendais le parti, le Bloc québécois, qui représente le Québec, qui s'occupe des projets du Québec, commencer à faire une levée de bouclier contre un projet chez nous, hey, je me tournerais, je serais comme, « Mais toutes tes affaires, là. »
Ben, c'est ça.
Je comprends que c'est un parti qui est fédéral. Sauf que, mettons, nous autres, je prends un exemple à petite échelle. Nous autres, à Québec, on est les premiers qui chialent qu'à Montréal vient s'ingérer dans nos projets et sites. Qu'est-ce qu'on fait à aller s'ingérer d'un projet qui se passe à l'autre bout du pays? C'est vrai. Je me suis posé la question. C'est vraiment ça le rôle du Bloc québécois? Mm-hmm.
Puis, c'était une excellente question, Mathias. Et moi, j'aime ça aller consulter comment les partis politiques se voient. Puis c'est quoi leur mission principale pour me dire, ben coudonc, hey Mathias, as-tu raison ou il n'y a pas raison? Ou même, est-ce qu'on a raison de penser ça? Et 418-971-1021, vous en pensez quoi, vous? Trouvez-vous que le Bloc québécois exagère quand il s'en va essayer de gérer un projet en Colombie-Britannique? Et je te lis ce que j'ai vu, et avec ce que j'ai vu, ben, pas le choix de te dire que le Bloc québécois devrait se farmer la trappe en bon français.
Okay.
OK. Le Bloc québécois, la mission fondamentale du Bloc québécois est de promouvoir et de réaliser l'indépendance du Québec à la suite d'une décision démocratique de sa population. On se remet à l'époque, il y a de cela 30 ans, dans le dernier référendum, le Bloc québécois, dans le fond, ça avait été créé pour pouvoir négocier avec le Canada lorsqu'on allait se séparer. C'était censé être temporaire, le temps, justement, du référendum. Mais finalement, on a trouvé plein de raisons pour que ça reste, parce que tu comprendras qu'on est bien payé quand on est un député du gouvernement
ça
du Canada.
Ça fait des belles pensions.
On a une belle pension, puis ça fait bien de dire qu'on a quelqu'un pour les intérêts du Québec à Ottawa. Là, vous me direz, si le PQ est élu, ça va être logique qu'il y ait le Bloc québécois, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, c'est Lucien Bouchard, un ancien conservateur, qui était le chef du Bloc québécois. Puis Lucien Bouchard, c'était tout qu'un négociateur. Puis, donc, on avait le kingpin avec nous autres au fédéral. Pas certain qu'Yves François Blanchet a la stature de Lucien Bouchard, sans vouloir lui manquer de respect.
Non, mais je pense qu'on va tous être en accord avec toi sur ça, Jeff.
C'est ça, sans vouloir lui manquer de respect. Je continue la lecture que j'ai faite. Les piliers de la mission, évidemment, il y a la souveraineté du Québec, Mais par la suite, défense des intérêts à Ottawa, portée, et là, écoute bien le mot, exclusivement les intérêts du Québec et les consensus exprimés par l'Assemblée nationale, le gouvernement québécois et la société civile à la Chambre des communes du Canada. Donc, exclusivement les intérêts du Québec. En quoi c'est notre intérêt, Colombie-Britannique?
Ben là, Jeff, là, c'est parce que faut que tu comprennes, ici au Québec, on n'aime pas ça, le pétrole. Fait que pourquoi les Québécois, on paierait pour du pétrole?
Ben oui, c'est vrai.
Pourquoi on construirait en... Hey, nous autres, on est contre ça. On n'en met pas dans nos chars, Jeff.
C'est vrai. Attends une minute, il y a un mot qui existe qui est la péréquation. Ça, aux dernières nouvelles, c'est entre 8 à 12 milliards qu'on perçoit.
C'est financé par quoi, ça,
c'est
déjà?
C'est financé par le Canada. Puis ça, avec cet argent-là, on prend nos propres décisions qui... sûrement vont pas dans le sens du Canada.
Ah, probablement pas, effectivement.
Ah, mais eux autres, ils nous donnent cet argent-là.
Non, mais nous autres, quand on fait un projet qui est pas... qu'on dépense de l'argent du gouvernement fédéral pour un projet, mais qui est pas nécessairement pour l'Alberta ou la Colombie-Britannique, ici, c'est correct, Jeff. Mais quand eux autres, ils font pour leur intérêt de province, mais que c'est l'argent... canadien, là, c'est pas correct. Le Québec, c'est où qu'on est gagnant là-dedans. Là. Mm-hmm. Eux autres, ils peuvent pas faire des projets pour eux autres. Là. Ça me semble logique, non?
Exactement. Éric qui nous écrit, le Bloc québécois est devenu aussi essentiel qu'un rasoir à kiwi. Je trouve ça drôle.
C'est quand même bon.
Il y a quelqu'un qui dit, le Bloc a été créé, pas en 95, en 91, suite à l'échec du Lac-Meach. Oui, c'est ça, j'avais dit, là, au début des années 90. Merci beaucoup, cher auditeur ou chère auditrice, pour le spécifier. C'est vrai, là, c'est à la suite de l'échec là, des négociations du Lac-Meach. Puis c'est ça que ça avait fait mal là, à Brian Mulroney, qui était le grand chum de Lucien Bouchard. Puis Bouchard, il a tourné le dos, il est parti. Par chance, ils ont réussi à se réconcilier un petit peu avant la mort de Brian Mulroney. C'était triste de voir deux amis comme ça se séparer. Marie-Ève qui écrit, je trouve que l'acceptabilité sociale a le dos large auprès des politiciens, surtout quand on parle de pétrole. Je suis complètement d'accord. Tu sais, l'acceptabilité sociale au Québec, on l'a pas en matière de pétrole présentement, mais si on était des producteurs, c'est du coup, on l'accepterait.
Ah, ce serait correct.
Ben oui, parce qu'on percevrait de l'argent avec ça.
Non, mais si nous, on s'enrichit, c'est correct. Si l'autre bord, ils s'enrichissent. Puis d'ailleurs, en passant, la péréquation, là, provient de l'Alberta parce qu'ils font beaucoup d'argent
clairement,
avec le pétrole.
Clairement, c'est ça.
En partant, là, fait qu'on s'enrichit. Avec ce projet-là, on va s'enrichir aussi. Là, je l'annonce en
partant.
Ah
oui, là. Fait que moi, je suis comme toi, j'ai un très grand malaise à voir le Bloc québécois faire une sortie sur un projet de pipeline en Colombie-Britannique qui va permettre d'engranger des profits au Canada. Le Québec fait encore partie du Canada. Ces profits-là, on en a de besoin, surtout dans la situation financière autant du Canada que de la province du Québec.
Je te fais un parallèle. Imaginons que le Bloc albertain existait, okay?
Ouais.
Qu'il y avait le Bloc albertain. Puis que là, depuis une couple de semaines, le Bloc albertain n'arrête pas de sortir dans les médias, puis de s'offusquer, puis de dire « Le projet de TGV du Canada... » C'est inacceptable parce que ça profite pas aux Albertains.
T'as raison.
On regarderait le Bloc Albertain, puis ici, toi, on leur dirait « Mets-toi donc tes affaires. »
Mets-toi de tes affaires.
C'est un projet pour ici.
C'est ça. Toi, t'extrais ton pétrole, t'as des subventions. Laisse-moi avoir ma subvention du TGV.
Chacun a ses projets qui profitent à sa province. C'est normal. On est un pays qui a un territoire immense.
Oui, avec des particularités différentes, que ce soit en termes de matières premières, de ressources naturelles et même de climat. Donc, c'est sûr qu'on ne vit pas la même réalité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un dernier texto qui est rentré, on ne va pas faire comme si le reste du Canada bâche pas le Québec 24-7. Tu as entièrement raison. Ça va toujours rester une dualité entre les francophones et les anglophones, entre le ROC, là, évidemment, qu'on appelle le Rest of Canada, et le Québec. Ça, c'est entièrement vrai. Mais moi, dans ce dossier particulier-là, je savais que le Bloc, je me serais gardé une petite joint.
Concentre-toi sur les enjeux du site.
Bien, reviens à ta mission, et je le répète, la mission du Bloc québécois, défense des intérêts à Ottawa, portée exclusivement sur les intérêts du Québec. Je vois pas comment le projet de pipeline vient justement jouer à l'encontre des intérêts du Québec parce que ça va rapporter des sous, puis on perçoit de la péréquation. Donc, merci Mathias de m'avoir allumé là-dessus. Puis tantôt, tu as fait le comparatif, tu as dit « Hey, c'est comme quand Montréal vient donner son opinion sur un projet de Québec. » Bien, plus tard dans l'émission, là, je vais te démontrer avec une chronique de la presse portant sur ce fameux toit qu'on veut construire sur le stade IGA qui sert pour l'Omnium de tennis une semaine par année. Ben Vincent Brousseau-Pouliot, là, le chroniqueur de la presse, je te laisse imaginer s'il est en accord ou non avec le fait qu'on va investir de l'argent public
à Montréal.
À Montréal, dans le stade.
C'est un journaliste de la presse.
De la presse. Et je te laisse imaginer ça va être quoi sa réponse. Et là, pense à toute la tollée qu'il y a eu autour du centre Vidéotron pour l'argent public, le PQ, la crise entre les députés des circonscriptions de Québec, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, puis Sud Montréal, puis pense à tous les commentaires et les chroniques sur le troisième lien. OK? Je te laisse imaginer ce qu'il va dire. Normalement, si ce chroniqueur-là était conséquent, il dirait... On peut pas investir d'argent public. J'ai dit non au centre Vidéotron, puis j'ai dit non au troisième lien.
Mais ça, c'est si on était conséquent, Jeff.
C'est si on était conséquent. Est-ce que le chroniqueur de la presse, Vincent Brousseau-Pouliot, sera conséquent avec un stade qui se retrouve dans sa ville? On parle de ça tout à l'heure dans l'émission. Sinon, ce qui va suivre après cette courte pause, on va parler avec Olivier Parent. Je viens de parler de troisième lien. Ça va être intéressant, directeur général de la ferme Gosselin située à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. On va parler du projet de troisième lien, mais spécifiquement du projet de troisième lien promu par le Parti conservateur du Québec. Parce qu'on sait le Parti conservateur pour que ça coûte moins cher. Ce qui est logique parce que tout coûte vraiment trop cher, disent qu'il faudrait faire passer le troisième lien par l'île d'Orléans, donc profiter du nouveau pont qu'on est en train de construire pour par la suite le poursuivre. Et la ferme Gosselin, ben ça passerait directement dans sa course, ce troisième lien. Oh,
fait que selon moi, on est contre.
Ben c'est ça, t'es souviens-toi, hier, on s'est parlé du texte du spécialiste de l'ENAP qui disait, ben quand ça passe dans ta cour, t'es contre. Alors, on va parler avec M. Parent, mais je veux parler avec lui aussi de voir, t'sais, ça serait quoi? Moi, là, je crois à ça, les voies de passage, les compromis, comment qu'on pourrait faire le nouveau projet de troisième lien de la CAQ? Est-ce que c'est un projet qui est acceptable pour eux? Puis comment, avec le domaine de l'agriculture, on pourrait faire pour développer ces grands projets-là sans vivre une manif, sans vivre un regroupement? Tu sais, je pense au TGV aussi, à Mirabel. Donc, comment qu'on peut faire les choses différemment? Je veux qu'on l'aborde aussi sur un angle un petit peu plus d'ouverture d'esprit et positif. Vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Merci infiniment d'être à l'écoute. On est très heureux de vous lire également au 418-971-1021. Midi 33 minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase, le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey va suivre à 14h et demain matin. C'est moi-même, Jeff Fortin, qui anime avec Pascal CV et Alex Laramé. Yannick Marceau et Max Larouche seront de retour la semaine prochaine de vacances. Météo, pas besoin de vous dire, ceux qui sont en vacances, vous êtes gâtés. 29 degrés ensoleillés aujourd'hui. 31 degrés généralement soleillé jeudi, 29 degrés alternance de soleil et nuages pour vendredi. Jeudi, soirée latino, grand feu l'Auto-Québec. Je dis ça, je dis rien. 31 degrés, soirée latino. On va pas mal ensemble, ça, Mathias?
Ah, selon moi, ça va danser pas mal.
Pas pire, hein? Pas pire. Je vais mettre justement sur le site, après l'émission, l'entrevue qu'on a eue avec Jean-François Archambault, qui est le directeur au niveau des grands feux l'Auto-Québec. Vous allez comprendre qu'on a une programmation de feu. Pour faire un mauvais jeu de mots, avec, encore une fois, avec cette édition-ci, qui est la 30e, dont deux samedis spéciales, un samedi country présenté par Weekend, notre station sœur.
Ben oui, ben c'est moi qui fais la présentation jeudi, justement. Là,
ben, ouais.
À 10h, là, je reviens dans les studios, je vais faire la belle présentation. Donc, si jamais vous voulez entendre ma voix, puis par la suite, la thématique musicale des grands feux ce jeudi, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou.
Toi, Mathias, quand j'entends quelqu'un dire les jeunes, ça travaille pas. Je leur dis, hey, wow, minute, Mathias Turcotte à l'Hotler Communication.
Il revient à 10h du soir.
Il a 22 ans, il est partout. Arrêtez de me dire ça. Hey, Mathias, sais-tu quoi? Si la CAQ s'était pas pogné le bacon, là, on n'aurait pas l'invité qu'on a au bout du fil.
Ah, entièrement d'accord.
Et ce matin, justement, puis je vais le mettre sur le blvd.fm, on a parlé avec Martine Biron, la candidate dans Chute de la Chaudière, ministre de la Condition féminine et ministre de la CAQ depuis 4 ans. Puis je lui ai posé la question, justement, j'ai dit « Pourquoi je voterais pour la CAQ, moi? » Parce que quand je regarde en Capitale-Nationale, quand je regarde en Chute de la Chaudière, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Vous allez me parler du tramway. Ça a été conclu à la sauvette à la fin du deuxième mandat. Même principe pour l'élargissement de l'autoroute 20. Puis là, on m'a dit « Ouais, mais le 10 août, on va vous présenter l'appel international, troisième lien. » Puis là, j'ai dit « On rejoue dans ce film-là pour une troisième fois. Vous êtes sérieuse? » Et elle a fini par m'avouer que ça avait avancé lentement. J'ai aimé ça.
Elle a fini par dire, c'est vrai que ça a avancé lentement.
Oui, puis
c'est de la faute à François Legault. Ben, c'est ça, dans
elle
cassette?
L'a pas dit de même, mais elle a dit qu'elle se représentait parce que c'était Christine Fréchette.
OK, bon. Fait que là, maintenant qu'on a un nouveau visage, on pète toute la marde, entre guillemets, là, dans le cours de celui qui était là avant.
Exactement. Parce que là, le fait qu'on parle encore d'un possible troisième lien fait en sorte qu'on parle encore des deux propositions, c'est-à-dire celle de la CAQ. Puis ils vont nous donner plus de détails le 10 août, c'est lundi prochain, t'as-tu hâte? On va se faire du popcorn.
T'as-tu hâte? Hey, pour de vrai, je pense que je suis rendu au même point que la majorité de nos auditeurs. Je vais te répondre non.
Ben je sais.
T'sais, dans le sens, je sais que ce projet-là va pas se réaliser de toute façon.
T'es-tu de retour sur le terrain, par exemple, lundi prochain?
Ben ça dépend à quelle heure va être la conférence.
OK.
Si elle est en matinée, je vais pouvoir y aller puis être dans l'émission avec toi par la suite, Jeff.
J'espère que ça va être ça. Je vais essayer de convaincre les grands ténors de la CAQ. À quelle heure ce serait bon pour toi?
Mettons, dans un monde idéal, 9h30, mais je sais qu'ils font jamais ça à 9h30,
fait qu'un
10h.
Un 10h,
ça irait.
Ah, un 10h, j'aimerais ça. Tu vas nous revenir, tu vas nous expliquer l'appel de projet international. Ah, les auditeurs vont être à l'écoute en grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez au 418-971-1021? Mais trêve de plaisanterie, il y a un deuxième projet aussi qui est sur la table, qui est celui de faire passer le troisième lien par l'île d'Orléans. C'est le Parti conservateur qui en fait la promotion. Et on a justement au bout du fil le directeur général de la ferme François Gosselin, Olivier Parent. C'est une ferme située à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Monsieur Parent, merci beaucoup pour votre disponibilité ce midi à l'émission d'Angers.
Oui, bien bonjour. Merci de m'accueillir à votre émission ce midi pour vous parler puis nous partager nos préoccupations par rapport au projet des conservateurs.
Oui, quelles sont vos préoccupations? Je comprenais dans l'article sur Radio-Canada, première préoccupation, c'est que le pont passerait directement sur vos terrains, donc vous perdez une partie de vos terres agricoles?
Oui, tout à fait. Puis d'entrée de jeu, là, on veut dire aux gens qui nous écoutent là, qu'on reconnaît les enjeux de circulation sur la rive sud de Québec, à Québec, et besoin d'augmenter la capacité des grands axes autoroutiers là, à Québec. Ça, on le reconnaît, puis on veut faire partie des solutions. Par contre, c'est de le faire au bon endroit pour répondre aux besoins de fluidité de transport. Puis pas un expert, là. Moi, je suis un fermier. Hein. Mm-hmm. Ensuite, là, je ne suis pas un ingénieur, tout ça, mais il y a eu déjà, je pense, le gouvernement du Québec a fait plusieurs analyses, il y a eu plusieurs rapports qui ont identifié plusieurs axes. Celui de l'île d'Orléans n'a pas fait partie de ceux qui étaient retenus pour toutes sortes de raisons. Fait que nous, on pense, parce qu'on aimerait ça que le gouvernement continue à avoir cette orientation-là, puis on aimerait ça que si jamais le Parti conservateur est élu, si M. Duhaime est élu, ben il puisse considérer les avis que des experts et des professionnels ont bâtis pour identifier des axes qui sont beaucoup plus porteurs pour la fluidité du transport que celui qui passerait sur l'île d'Orléans.
Donc, pour vous, vous rabattez sur les experts. Est-ce que le projet présenté par la CAQ plus Alès est un projet qui est acceptable pour les gens de l'île d'Orléans et les gens en agriculture de l'île d'Orléans?
Ben, moi, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour nous autres, c'est sûr qu'on voit des impacts importants si c'était sur l'île d'Orléans. T'sais, on parle sur le tracé qui est identifié. Ça nécessite nécessairement d'exproprier des maisons, des familles, des enfants, des fermes comme la nôtre, par exemple, qui exploitent depuis 7 générations. T'sais, notre arrière-grand-père a dit long, notre grand-père François, là, des gens qui ont travaillé la terre, là, des mains nues, arrachées et roches, c'était pas fait avec des pépines puis de la machinerie. Là. Alors, c'est de tenir compte de l'histoire, notre patrimoine. L'île d'Orléans, c'est un site patrimonial. C'est une île qui est à 99% agricole. Donc, imaginez l'impact que ça aurait de passer un axe autoroutier de cette ampleur-là sur ce site-là. Alors, c'est sûr que les impacts sont très importants, puis on reconnaît les besoins, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas analysé l'ensemble des rapports des experts qui ont proposé d'autres axes qui sont, à mon avis, plus vers les ponts existants. Il y a des infrastructures déjà existantes là aussi. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est, on dit aux politiciens, on dit à M. Duhem, bien, écoutez nos préoccupations. On veut que vous sachiez que c'est quoi l'impact de votre promesse électorale pour que vous sachiez exactement c'est quoi que ça représente.
On comprend vos préoccupations, puis vous avez nommé les préoccupations des autres personnes en lien avec les problèmes de circulation. Ma question est donc la suivante. Si jamais un pont est à l'est, mais passe pas par les d'Orléans, mais un pont qu'on choisit de faire à l'est, un peu comme ce que Christine Fréchette propose présentement, est-ce qu'on s'oppose au projet à ce moment-là ou on dit c'est correct, ça touche pas à nos terres?
Bien, moi, comme je vous dis, je ne peux pas me prononcer pour les autres. T'sais, je ne me prononce pas au nom de l'île d'Orléans.
Mais de votre côté, par exemple.
Mais de nous autres, c'est sûr qu'il y a moins d'impact que si ça passe sur nos terres agricoles qu'on cultive en ce moment. Là, parce que là, ça veut dire on fait quoi s'il y a un pont qui passe par-dessus nos terres? Est-ce qu'on est capable de les cultiver encore? Puis que ce soit sur notre ferme ou sur une autre ferme. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie importante de l'île où cet axe-là passerait. C'est un site de conservation. Il y a des milieux humides, il y a des forêts. Nous, présentement, on ne peut même pas creuser un étang pour irriguer nos champs. Comment qu'on peut envisager de faire passer un pont sur cet endroit-là? Il y a un peu d'incohérence, là, à mon avis. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut témoigner, on veut partager à M. Duhem. Tu sais, dans le fond, on n'est pas opposé à un projet, puis on ne veut pas se mettre aux barricades. Mais est-ce que ces éléments-là ont été considérés? Puis ce qu'il nous dit, c'est est-ce que c'est oui ou c'est considéré, auquel cas il fait fi de tout ça puis il décide de le faire pareil? Alors c'est un peu ça le témoignage qu'on veut. On n'est pas opposé à un troisième lien, mais est-ce qu'il peut être sur un axe qui a le moins d'impact possible?
Je comprends très bien votre préoccupation et votre point de vue. Je vais plus largement, puis là, je vais vous parler d'un exemple qui ne concerne pas l'île d'Orléans, mais avec le TGV, on voit les agriculteurs dans le coin de Mirabel faire des sorties en grande pompe. Comment qu'on pourrait faire différemment dans la gestion de nos projets pour pas que le projet se retrouve régulièrement en confrontation avec le monde agricole? Est-ce que ce serait de vous asseoir à la table dès le début? Comment qu'on pourrait faire les choses différemment du côté des paliers de gouvernement?
Bien, je pense que c'est un élément intéressant que vous soulevez. Nous, à l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec, il y a certains producteurs qui seraient potentiellement impactés d'un tracé du projet Alto là, dans la couronne nord de Montréal. Puis quand je parle avec ces producteurs-là, c'est qu'il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de communication. Les gens sont inquiets. Ils ne savent pas. Ils disent, nous, on cultive nos terres, on a des entreprises, on a des investissements. On a de l'argent, tu sais, faut qu'on paye la banque à la fin du mois. Bien, il va se passer quoi? Il va-tu passer chez nous, le projet? Ça va impacter de quelle manière?
Vous êtes complètement dans l'incertitude quand il y a un projet de cette ampleur-là.
Tout à fait. Exactement. Alors, si on ramène ça au pont à l'île d'Orléans, bien, nous, on n'a eu aucun détail, on n'a eu aucune communication à part ce qui a filtré dans les médias. Alors, c'est sûr que ça nous préoccupe parce qu'on est dans l'incertitude puis on n'a aucune connaissance, aucune donnée. Alors, ce qu'on veut témoigner, c'est bien, est-ce qu'on pourrait faire partie de la discussion si un projet de cette ampleur-là était pour se réaliser?
Ah, je comprends très bien votre préoccupation. Puis dernière question pour vous, on va tomber en campagne électorale. Quels sont justement les besoins du monde agricole? Qu'est-ce que vous demandez à nos différents paliers de gouvernement?
Bien, il y a beaucoup de bureaucratie qui s'ajoute année après année. Donc, on demande au gouvernement, aux deux paliers, que ce soit au provincial ou au fédéral, puis même au niveau local, hein, au niveau des municipalités ou de la MRC, c'est de diminuer la lourdeur administrative qui est exigée au monde agricole année après année, puis de voir ça comme un partenaire. Tu sais, alors, que ce soit au niveau environnemental, notamment, mais on veut faire partie de cette solution-là, mais on doit formuler des rapports. Je vous disais, un exemple concret pour que vos éditeurs comprennent. Là, on a besoin de creuser des lacs pour irriguer nos champs parce que les changements climatiques, les conséquences, on les voit. Hein. Il y a plus de sécheresse, il y a énormément de pluies ou d'averses qui sont abondantes, mais il y a des périodes où on a besoin d'eau, puis on veut creuser des lacs, puis on est confronté à une multitude de rapports d'analyse et de délais et d'autorisations à obtenir pour des fois creuser des petits étangs d'irrigation qui sont nécessaires. Alors, c'est de nous aider à être capables d'accomplir notre mission.
Donc, d'avoir plus de flexibilité, plus de rapidité là, de votre côté, c'est tout à fait normal, là, surtout avec le phénomène des changements climatiques. Vous avez eu une bonne saison à la ferme?
Oui, on a une belle saison. Les fraises sont abondantes, sont sucrées, sont bonnes. On a une température quand même, somme toute, qui nous aide beaucoup au niveau de la production. Alors, on est très heureux. La météo nous aide, puis on continue à produire pour nourrir les gens avec des fraises, framboises et des mûres.
Olivier Parent, directeur général de la ferme Gosselin située à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est très apprécié.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Olivier Parent, qui est directeur général d'une ferme située sur l'île d'Orléans. Tu vois, ça fait plein de sens. Puis c'est exactement ce que je pensais. Nos gouvernements sont même pas capables d'appliquer une règle de base dans une gestion de changement, c'est-à-dire de s'asseoir avec les gens qui vont être concernés.
Ah, mais ça, c'est je veux dire... Puis j'ai hâte de voir s'il va y avoir un changement avec le changement de gouvernance. Je pense qu'on est toujours... On est toujours en droit d'espérer mieux de nos paliers politiques, surtout quand on change de parti.
Ben, vraiment.
Parce que ce qu'on a vu de François Legault, là, pour parler à différents acteurs de tous les milieux, c'est une déconnexion complète du milieu.
François Legault et sa garde rapprochée. Je fais juste faire un parallèle avec Marie-Josée Morancy, là, qui va se présenter finalement pour la CAQ dans Charlebourg, mais qui était PDG de la Chambre de commerce et de Lévis. Quand Christine Fréchette a été élue, et c'était à ce moment-là Benoît Charrette qui a été mis ministre des Transports. C'est la première fois qu'elle parlait au ministre des Transports puis au premier ministre.
Pour un projet de troisième lien qui était supposément sur une base économique.
Avec Geneviève Guilbeault et François Legault. Ah,
Puis pour de vrai, ça se ressentait dans tous les milieux. Une déconnexion complète du gouvernement caquiste. Je sais pas si c'est la... Tu sais, on a comme pris la façon de faire durant la COVID, durant laquelle, veux pas, on décidait par nous-mêmes sans nécessairement parler aux différents milieux, d'aller directement sur le terrain, qu'on a juste continué à à utiliser cette manière de faire-là, même hors COVID. Je sais pas si c'est ce qui explique la chose. Mais une chose est sûre, on était complètement déconnectés de notre monde.
Ben oui, et la meilleure façon de réussir un projet, c'est de prendre tes gens qui sont réfractaires, de les faire travailler dans le projet, de modifier et d'améliorer ton projet en fonction qu'eux vont devenir après ça des porteurs de ton projet. Puis dans le cas du troisième lien, c'est pas fait du tout. Dans le cas de la proposition d'Éric Duhaime non plus, visiblement, ce n'est pas fait. Puis je vais prendre un exemple très frappant aussi. Dans le cas des travaux du tramway. Tu sais, qu'un Carl-Emmanuel Picard, propriétaire du bord entier, soit obligé de pleurer sur nos ondes parce qu'il se fait imposer des choses sans qu'il ait droit de parole. Tu sais, c'est pas censé être ça. Il y a des travaux qui vont passer sur Dorchester. Les gens de la ville sont censés aller voir les commerçants. Comment qu'on peut vous aider? Comment qu'on peut agrémenter? Comment ci, comment ça? Et puis là, ben, c'est toujours ça que je dis, les fameuses voies de passage, les compromis qui font en sorte que tout le monde y trouve un certain gain, mais malheureusement, nos gouvernements ne travaillent pas du tout comme ça. Ils travaillent avec leur idée, leur façon de faire, puis ils font fi des réalités des autres. Les réalités du monde agricole sont importantes, quand même bien eux qui nous nourrissent une bonne proportion de l'année. Donc, on ne peut pas en faire fi, là, selon moi. Vous en pensez quoi de la façon de travailler du gouvernement? 418-971-1021. Jusqu'à... Bon, Mathias, sans surprise, le sujet de l'heure hier, en fin de journée et depuis ce matin, c'est le droit à l'avortement au Québec. Et ça l'a émané d'un scrum qui a été fait. Un scrum, c'est quoi? C'est des journalistes qui se pitchent quelqu'un puis qui posent des questions. C'est aussi simple que ça. Dominique Dumas, hier, était à la présentation du candidat dans Louis Hébert, Marco Archambault, qu'on a reçu ici à l'émission Nangeur sur Boulevard 109. Ça se retrouve sur le blvd.fm. Et là, ben, les journalistes se sont garochés sur Dominique Dumas parce que, comme tu nous l'as si bien démontré, Dominique Dumas, même s'il a effacé 7 ans de sa vie sur les médias sociaux, ben, il avait quand même laissé des traces de gars qui voulaient venir jouer dans l'avortement.
Ça peut pas disparaître au complet.
Exactement. Il avait quand même laissé des traces de... Il se comparait à une femme battue à la COVID, puis que des hosties de crosseurs.
Les hosties de voleurs, si on parlait des agriculteurs. Pour ce qui est des droits à l'avortement, le tweet qui a surtout retenu l'attention, c'est en 2019, Dominique Dumas, puis c'est assez direct, là. avait tweeté mot pour mot « L'encadrement de l'avortement demeure une chose à faire ici au Canada ».
Alors, évidemment, les journalistes ont repris ça. Puis pour de vrai, là, je le dis très ouvertement, quand il est question d'avortement et de partis conservateurs, que ce soit au Québec ou au Canada, les journalistes sont très tâches là-dessus. Là. Ils vont aller poser les questions, puis ils vont vraiment essayer d'aller justement au fond de la chose. Dans le but d'être très respectueux et d'être très juste et équitable avec Dominique Dumas, je vous fais entendre le scrum, c'est 1 minute 36, parce que je ne voudrais pas être celui qui prend juste une petite cote, puis après ça, qui fait du galon là-dessus. Donc, écoutons le scrum en entier de Dominique Dumas hier, et par la suite, je vais vous amener quelques statistiques sur l'avortement.
Je vois que ça fait une espèce de brouhaha un peu là-dessus, mais c'est pas un sujet provincial, c'est pas pour ça que je suis en politique.
C'est pas pour ça. Il y a un élément quand même médical, souvent, donc le médical...
Le rôle du provincial par rapport à l'avortement, je vais vous régler ça, là, c'est de le faire le plus rapidement et éthiquement possible. That's it. T'sais, nous autres, on donne le service. C'est ça notre job.
Mais à travers les ressources, souvent, le provincial a un rôle à jouer là-dessus. Donc, je vous demande, par exemple, quel type de balise souhaiteriez avoir pour l'avortement? Est-ce que c'est les avortements tardifs, sélectifs? Est-ce que c'est les ressources? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme balise?
Je pose ressources, ça, c'est clair. Mais au niveau provincial, moi, je me lance en politique, là. Et au niveau provincial, il n'y a pas de balise et il n'y a pas rien à changer dans ce qu'on a présentement, là.
Donc, vous menez toujours, par exemple, ces convictions-là?
Oui, écoutez, il y aurait des débats à avoir là-dessus, du moins, mais c'est pas la place ici pour le faire.
C'est pas la place pour le faire. Vous voyez que ça crée un malaise quand même dans la société québécoise de parler d'avortement ou de balise,
oui,
ou d'encadrement, donc vous sentez un peu mal à l'aise d'en discuter?
Non, je me sens pas mal à l'aise, mais je pense que, puis pas juste au Québec, mais au Canada, c'est un débat qu'on n'est pas mûr à l'avoir personne. Puis,
désolé, on est pas
là. Monsieur Duhem a dit quand même que si vous devenez député, il n'y a pas question pour vous de parler encore de ça publiquement.
Ni en caucus non plus. C'est pas un sujet qu'on a amené au provincial. C'est pas un sujet pour lequel je suis en politique non plus. Donc, il n'y a pas de question à avoir là pour moi.
C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. Merci.
Alors, c'était le chef des communications qui est passé et qui a dit « OK, c'est beau, c'est terminé ». Ce à quoi Dominique Dumas faisait référence, c'était beaucoup l'avortement lors du troisième trimestre.
Oui, l'avortement tardif, puis c'est beaucoup sur ça que ces différents propos par le passé
exactement
se sont concentrés.
Pour moi, je l'ai dit ce matin puis je le redis ce midi, pour moi, c'est pas un enjeu l'avortement au troisième trimestre parce que j'ai parlé à plusieurs spécialistes hier, j'ai parlé à des familles qui l'ont vécu. Je suis allé chercher des statistiques, c'est entre 30 à 40 cas au Québec par année, ce qui représente 0,0001% des cas d'avortement au Québec. Dans la très, 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 très grande majorité des cas, c'est fait pour deux raisons. D'un, tardivement, on se rend compte que l'enfant va vivre avec un handicap. Donc, on demande aux parents, êtes-vous habilité, êtes-vous prêt à vous occuper d'un enfant handicapé de la première seconde qui va naître jusqu'à sa dernière? Et là, les parents prennent le choix de se faire avorter tardivement. Honnêtement, je ne veux pas juger ça. Je ne sais pas quel choix j'aurais fait, moi non plus.
C'est ça, c'est un choix rendu là
qui
est aux parents.
Parce que c'est vraiment énorme l'investissement pour un enfant qui est handicapé. L'autre cas que ça peut arriver, c'est que là, on se rend compte que la mère, là, sa santé, là, ça se peut qu'elle y passe. Ça se peut qu'elle meure de l'accouchement ou de complications qu'elle a à l'heure actuelle. Alors, les parents prennent la décision de dire hey, « Écoute, on va être mieux de rester un couple et d'avoir un enfant plus tard que de risquer la vie de la conjointe. » Il y a dans quelques cas également qu'on m'a expliqué que ça va être un petit peu plus l'équipe médicale qui va forcer pour ça. Et ça, c'est dans des cas, exemple de femmes toxicomanes qui ne se rendait pas compte qu'elle était enceinte, qui arrive chez le médecin et est enceinte de 30 semaines.
Ouf.
Ben là, je suis 30 semaines, mettons, tardivement, c'est après la 24e semaine, donc mettons, je vais le mettre à 25.
Ouais.
Là, ils disent, ouais. Il va avec quoi que la santé de cet enfant-là? La femme, elle se pique depuis 25 semaines et est enceinte.
Hey, bonne chance pour commencer ta vie.
Exactement. Fait que ça, dans ces cas-là, il peut avoir des médecins et des travailleurs sociaux qui vont dire, tu sais, qui vont entre guillemets, un peu convaincre la mère de hey, écoute, ça n'aura pas de sens là, si tu amènes ce bébé-là à terme. Mais je le répète, c'est 0,0001% des cas au Québec. Il y a Richard Martineau qui a fait une sortie en règle sur ses médias sociaux hier en disant ouais, mais là, vous savez, le sexo-avortement, ça existe. Le sexo-avortement, c'est quoi? C'est que si l'enfant que tu as dans ton ventre, c'est pas le sexe que tu veux, tu décides de te faire avorter. J'ai parlé à des spécialistes, j'ai lu là-dessus hier. Ça existe beaucoup en Corée. Donc, ça existe beaucoup dans le monde asiatique, Corée, Chine, etc. Parce que des fois, c'est des endroits où ils ont même un quota pour les enfants.
Oui, à l'époque, en Chine, notamment, il y avait beaucoup de filles qui étaient mises en adoption pour cette raison.
Exactement. Donc, c'est une tendance du monde asiatique. Est-ce que ça existe au Canada? Peut-être. Peut-être dans des communautés asiatiques comme à Toronto, à Vancouver, où il y a de la médecine qui est plus faite justement par cette communauté-là. Au Québec, on ne peut pas dire qu'au Québec, à 100%, on est sûr que ça n'arrive pas. Mais au Québec, la procédure, quand tu veux te faire avorter, là, travailleur social, médecin de famille, médecin spécialiste, psychologue, tu passes là, la grande démarche avant de dire « OK, c'est beau, je suis vraiment sûr que je veux me faire adopter ». Les femmes sont pas obligées de dire pourquoi ils se feraient adopter, mais tu sais, je te dirais, la presque totalité va le dire là, à son médecin. Je veux me faire avorter.
Pas pourquoi ils se font avorter, oui.
C'est ça, je me fais avorter parce que j'ai 17 ans et je veux pas avoir l'enfant. Je me fais avorter parce que c'est un one night et je pensais pas tomber enceinte. Donc, la plupart des médecins, travailleurs sociaux, je dirais la plupart, la très, très grande majorité le savent. Alors, si vous lisez sur les médias sociaux aujourd'hui ou depuis hier que ça n'a pas d'allure au Québec, il y a une problématique de sexe. Soit avortement, c'est pas vrai. Je nie pas qu'il peut y avoir quelques cas qui passent à travers les mailles du filet, mais c'est pas vrai. Ça existe pas au Québec en grande quantité.
Puis je suis entièrement d'accord avec toi sur tous ces aspects-là. Tu sais, dans le sens où, oui. Moi, pour moi, c'est un droit qui est acquis, puis c'est un droit qu'il faut pas remettre en question. Par contre, pour revenir à la saga de Doom Dumas, j'ai pas eu la chance de la commenter jusqu'à maintenant.
Ben, vas-y.
Pour de vrai, à écouter du Scrum, pour moi, j'ai pas de problème avec la ligne que Dominique Dumas a tenue en Scrum. Tu sais, dans le sens, on peut critiquer le Parti conservateur d'avoir fait le choix de prendre un candidat qui est pour, justement, limiter l'avortement tardif. On peut critiquer le Parti conservateur d'avoir pris un candidat qui est contre ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment... Tu sais, dans le sens, Doom Dumas a cette opinion-là. Il l'a exprimé sur les réseaux sociaux par le passé. Il se fait questionner en Scrum. Moi, je trouve, au contraire, de mon point de vue, qu'il a bien répondu.
Oui, honnêtement. Moi, quand j'ai écouté le Scrum, tu sais, de la façon que c'est sorti dans les médias, je me disais... Tabarouette, il a dû sortir une affaire.
Il s'est échappé, tout, ouais.
Puis non, je pense qu'il s'exprime bien. T'sais, il nie pas que lui a ce courant de pensée-là, mais il s'exprime bien en disant que ça ne sera pas un débat. Moi, je salue le travail d'Éric Duhaime là-dedans, qui a tout de suite pris la balle au bon, puis qui a dit « Hey, écoutez-moi bien, nous autres, c'est pro-choix, ça s'arrête là. » Parce que Duhaime, contrairement à un Pierre Poilievre au Canada, joue pas sur cette ligne mince-là pour essayer de garder les gens qui sont anti-avortement au sein du Parti conservateur.
Non, c'est ça. Lui, de base, au Québec, là, ça, c'est vraiment impopulaire.
Exactement.
Débat,
donc, je le salue. Très beau réflexe. En effet, le Scrum de Dominique Dumas n'était pas du tout problématique. Je pense que la problématique, c'est que dès que tu donne une petite brèche sur une modification au droit de l'avortement, là, c'est tous les coucous de ce monde qui sortent sur les médias sociaux, puis là, t'en entends
mais en même temps,
parler de partout.
Cette brèche-là, dans ce cas-ci, excuse-moi, mais elle a été créée par la tollée médiatique. Puis ça, je le pense.
Bien, elle a été créée à la base par ses opinions sur les médias sociaux.
Oui, mais si les médias l'auraient pas pris en Scrum, puis après ça, on reprend une citation... Tu sais, je parle rarement contre les médias.
Ouais.
Ces cotes-là, je les aurais fait jouer en onde aussi en tant que journaliste. Je fais mon mea culpa parce que on veut du spectacle.
Ben oui.
On veut du spectacle aussi. Ça fait un peu partie
de
notre travail.
J'ai été sur le terrain, t'es sur le terrain. Si t'as cette information-là, c'est sûr que tu poses la question.
T'as pas le choix, sinon t'as l'air déconnecté. Sauf que si c'était pas des médias qui auraient repris une citation, puis fait un article avec ça, puis tout. On n'en aurait pas reparlé aujourd'hui de cette situation-là puis des propos que Doom Dumas a tenus en 2019.
Cependant, moi, je vais nous défendre les médias. Je suis content quand on le fait. je suis content qu'on démontre qui est le candidat devant toi.
Oui, oui, c'est sûr, mais là, tu sais...
Parce que l'avortement, le droit à l'avortement, et là, corrigez-moi si je me trompe, au 418-971-1021, le droit à l'avortement, c'est un droit auquel on ne veut pas retoucher au Québec. Fait que je suis content de savoir qu'il y a un candidat qui, lui, pense différemment.
Puis ça, je suis d'accord, puis je pense que c'est important d'être informé sur nos candidats, mais... À ce point-là, tu sais, c'est plus ça,
ben,
mon questionnement.
C'est un sujet très sensible. Pis...
Que j'amène, parce que lui, hier, il n'a pas tenu ces propos-là hier. C'est des propos de 2019 qu'on lui a remis, puis il a dit clairement, « Hey, je suis en politique, ça fait pas partie de mes enjeux. »
Oui, mais tu sais, je pense que c'est un sujet très sensible au Québec et avec raison. Puis il y a deux raisons à ça que je l'explique. C'est que premièrement, puis là je vais retourner avec le reste du Canada, on sait que la position anti-avortement est quand même bien développée en Alberta et dans l'ouest du pays. Donc, veut pas loin de nos frontières. Puis on a juste à regarder ce qui s'est passé aux États-Unis aussi. Avec le renversement du jugement, bien, il y a 26 États présentement où l'avortement 100%. Est n'est pas permise. Donc, demain matin, en Ohio, comme je disais ce matin, il y a une petite fille de 16 ans qui tombe enceinte d'inceste de son père, puis
ah,
on
puis ça,
lui dit « garde-le ».
C'est inacceptable. Puis, je le répète, pour moi, c'est un droit qu'on doit conserver, puis c'est un droit qu'on doit considérer fragile. Sauf que j'ai tout le temps de la misère qu'on ressort tout le temps cette fameuse carte-là anti-avortement sur le Parti conservateur du Québec. Puis, je suis pas un fervent... Puis je pense que pour ceux qui nous écoutent souvent, vous le savez, là, je ne suis pas un fervent défendeur du Parti conservateur.
Non, en effet.
Sauf que la position du parti est assez claire. Là.
Oui.
Fait que moi, de tout le temps vouloir aller chercher des petites brèches, puis tu sais, de dire ce candidat-là pense ça, OK, c'est parfait, c'est important de le savoir, mais de tout le temps vouloir aller chercher la petite brèche pour associer des conservateurs au droit à l'avortement, j'ai un malaise avec
ça. Oui, mais là, le dossier est réglé. Éric Duhaime a été très clair. Mais veux-tu te dire aussi pourquoi les médias font ce travail-là avec Dom Dumas?
Pourquoi?
Parce qu'il a effacé ses 7 ans, ses médias.
Aussi.
Fait que là, les médias s'amusent avec.
Puis ça, je pense que...
Puis on est les premiers à le faire.
C'est de bonne guerre. Non, effectivement. Puis Jeff, je sais pas si tu t'en souviens, là, quand on l'avait reçu en studio dans le show du midi, je les avais ressortis ces tweets.
Ah oui, on y avait posé des questions.
Puis je l'avais dit en ondes qu'il y avait des positions contre l'avortement tardif.
En plein ça. Hey, je termine avec le texto de Charles-Étienne. Je pense que c'est lui qui résume le mieux la situation. C'est avec un petit goût de vomi dans la bouche que j'admets que Dom Dumas a bien répondu. De mon côté, je n'ai aucun bémol si on accorde le droit à l'avortement. C'est pour tous et sans droit de regard sur la raison évoquée. En effet, je pense que ça fait consensus, Charles-Étienne, à l'effet que il n'y avait rien de catastrophique dans ce Chrome-là. On a plus ramené une histoire de médias sociaux de 2019. Mais t'es, à un moment donné dans la vie, la transparence fait foi de tout. Puis si tu te présentes en politique, ben présente-toi avec tes idéologies. Puis tu te feras élire avec tes idéologies ou non.
C'est facile à dire, mais t'as pas le choix de cadrer dans une ligne de parti aussi, Jeff.
Oui, mais t'sais, tu peux facilement, quand tu te présentes, dire « Hey, oui, moi, en 2019, j'ai fait des posts anti-avortement. Maintenant, je suis rendu pro-choix. » Ou j'y pense encore, mon positionnement, mais je vais me rallier au positionnement de l'équipe qui est pro-choix, puis tu viens te tuer.
Ou encore, tout simplement, pas les supprimer, ces posts-là.
Ben, c'est
aussi, ça
peut être une exactement, option. Exactement. La transparence, ça aide en crime à régler des dossiers. Après la pause, on parle de ces compagnies pétrolières qui s'enrichissent sans bon sens avec la guerre au Moyen-Orient pendant que nous autres, on s'appauvrit. On va parler de tout ça avec un spécialiste. Il s'appelle Louis Beaumier et il est directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier. Restez avec nous. Boulevard 101, émission d'En Jase, ton rendez-vous du midi avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte. C'est ça cette semaine? C'est ça dans la semaine du 10, c'est ça dans la semaine du 17. Écoute-nous, on aime beaucoup quand tu réagis au 418-971-1021. Puis on aime de te parler des informations et des nouvelles qui, justement, viennent jouer sur ton quotidien. Puis on va en parler là, avec les pétrolières dans quelques instants. Mais avant, Mathias, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Deux jeunes qui sont décédés du côté de Laval après une poursuite policière en voiture. Ce qui s'est produit, c'est que les policiers ont voulu intercepter une voiture vers 1h20 du matin. Pourquoi? Celle-ci roulait sans plaque d'immatriculation. Le conducteur a donc mis les gaz pour échapper à la police. Les policiers qui ont cessé de poursuivre la voiture pour des enjeux de sécurité. On était quand même en pleine ville. Finalement, la voiture qui a terminé sa course en fonçant dans la façade d'un centre commercial, d'un centre de conditionnement physique sur le boulevard des Laurentides. Le conducteur qui a perdu la vie, une femme de 19 ans qui était passagère, qui a aussi succombé à ses blessures. Un dernier passager, un homme de 19 ans, qui se bat présentement entre la vie et la mort. Un homme de 29 ans a été arrêté aujourd'hui en lien avec le meurtre de Nicolas Audet à Saint-Isidore en 2022. Ça remonte il y a de ça 4 ans. Puis quelques moments après que Nicolas Audet a été retrouvé mort dans sa demeure en Beauce, son ex-conjointe qui s'est sauvée avec leur enfant de 18 mois, elle s'était sauvée à ce moment-là avec un complice, Étienne Gourde, et c'est finalement sur cet homme-là, 4 ans plus tard, qu'on met la main, qu'on arrête justement et qu'on accuse présentement du meurtre au premier degré de Nicolas Audet. À noter que dans cette affaire-là, l'ex-conjointe de Nicolas, qui aurait été la témoin clé dans cette affaire, est décédée en voiture en 2023, ce qui vient compliquer la cause. Et je termine avec les pétrolières, comme tu as dit, Jeff, qui s'en mettent plein les poches en pleine crise pétrolière. C'est le cas partout à travers le monde et même au Canada. On parle notamment de la filiale canadienne de ExxonMobil. Elle produit entre autres l'essence pour la bannière Esso. A engendré des profits monstres de 2 milliards d'avril à juin seulement. Là, c'est une augmentation de 130% par rapport à l'année dernière. Le groupe Valero, qui a touché 5 fois plus d'argent qu'à l'année dernière aussi. Donc, on voit beaucoup de pétrolières faire beaucoup, beaucoup de profits en raison du prix du pétrole qui augmente.
Exactement, des profits qu'ils vont percevoir directement dans nos poches, nous, les citoyens les plus taxés de l'Amérique du Nord. Pour en parler avec nous, on a Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier. Monsieur Beaumier, merci beaucoup pour votre disponibilité pour l'émission Dans Jase.
Faites bien plaisir.
Monsieur Beaumier, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces profits records? Est-ce que les pétrolières nous rient en pleine face et pourraient justement diminuer le coût à la pompe?
Ben, est-ce qu'elles nous rient en pleine face? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles pourraient diminuer le coût à la pompe? Ben, étant donné que la demande est là, d'un point de vue purement affaires, je ne vois pas pourquoi elles réduiraient leur prix, voyez-vous. C'est le système dans lequel on est. Alors, on est un peu captif de ce produit-là. Donc, ben voilà, elles vont engranger tous les profits qu'elles peuvent.
Nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour venir diminuer le prix à la pompe? Bon, il y a les fameuses taxes qu'on peut diminuer, mais on a vu le gouvernement Carney le fait avec un 10 sous, puis on voit pas beaucoup de répercussions.
Ben non, évidemment. Si la taxe est réduite, ben c'est une opportunité pour les détaillants d'augmenter le prix. Là. Mm-hmm. Puis c'est pas que il n'y a pas que les pétrolières aussi, il y a le distributeur final, là, le point de service. Là, bon, eux sont aussi victimes de l'inflation. Là, alors leur coût d'opération à eux augmente aussi, donc ils vont augmenter un peu là. Comme vous l'avez vous-même affirmé, là, réduire les taxes, c'est plutôt difficile de la part du gouvernement. Il peut bien le faire, le gouvernement, mais la différence de prix va être, à mon avis, très rapidement reprise par les détaillants et les distributeurs. Et non seulement ça, mais en plus, c'est que ça prive l'État de revenus dont il y aura besoin.
Oui, c'est ça. C'est comme un coup de... On s'est rendu compte avec Mark Carney, parce que moi, je croyais à ça. Je disais, ben oui, si on réduit les taxes, crime, avoidons, ça va aller dans la poche du contribuable, mais non, pas du tout. Ça va dans la poche du détaillant ou de la compagnie pétrolière.
Oui, tout à fait. Puis ce qu'on constate aussi, c'est ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'on voit que le prix du baril de pétrole n'a pas vraiment augmenté, même depuis, en valeur constante, si on regarde quand il a atteint son maximum en 2008, on est à peu près au même prix du baril. C'est vraiment les marges, c'est les marges de raffinage. Et bon, oui, les taxes ont un peu augmenté, mais c'est surtout les marges de raffinage qui ont beaucoup augmenté. Alors, effectivement, ils engrangent beaucoup plus de profits. Alors, c'est ben, comme lui, on est captif de ce produit-là. La demande est là, alors ils vont ajuster le prix en conséquence. Le seul vrai levier qu'on a, c'est de réduire notre demande.
Oui, bien justement, de réduire notre demande, est-ce que ces pétrolières-là se sont rendues un peu compte, si je peux dire, qu'ils pouvaient mettre les prix plus élevés qu'ils le faisaient auparavant, malgré le fait que le baril de pétrole a rebaissé, qu'on pouvait maintenir les prix élevés puis simplement engranger plus de profits, fait que maintenant, on marche un peu comme ça?
Ben oui, effectivement. Ils se rendent bien compte que la demande va toujours être là. La demande continue à être là. Je ne dis pas que c'est facile de renverser tout ça, mais c'est là que le gouvernement peut avoir un rôle plus intéressant. Là. C'est-à-dire, oui, encourager l'électrification, encourager permettre, par exemple, à des voitures électriques venant de la Chine d'être vendues sur le marché canadien. En ce moment, évidemment, on craint beaucoup pour l'industrie automobile au Canada et qui est très liée à celle des États-Unis. Là. Je veux dire, de ce côté-là, la bataille est pratiquement déjà perdue.
Ouais.
Alors, on s'accroche à cette industrie-là, mais si on regarde les tendances mondiales, là, ben c'est plus ni en Amérique ni en Europe qu'on fabrique le plus de voitures. C'est vraiment du côté de l'Asie. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dès maintenant, penser à transformer notre tissu économique et dire, ben voilà, l'industrie automobile, en tout cas, c'est plus les gros joueurs américains qui ont le haut du pavé. Fait qu'on est aussi bien de tenter de faire des ententes avec les autres manufacturiers. Là. Pensons même à la Corée, par exemple, qui fait Hyundai, là, moi, je me rappelle, plus jeune, on riait des Hyundai Pony, là, mais je veux dire, ils ont beaucoup, beaucoup fait de progrès, puis ils ont même dépassé en qualité ce qui peut se faire en Amérique du Nord, puis même d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, ce qui se fait en Europe. Là. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être juste de ce côté-là qu'il faut agir, ou c'est là qu'on a vraiment un levier, c'est-à-dire il faut transformer la façon dont on se motorise, la façon dont on se déplace. Même du côté des camions lourds, là, la Chine, depuis quelques années, ils vendent plus de camions, là, ce qu'on appelle des classes 8, là, des gros... Des semi-remorques, là, ils vendent plus de semi-remorques à batterie que de semi-remorques au diesel. Alors, la tendance est là. Mais on ne le voit pas encore ici, évidemment, parce que bon, changer les flottes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis il y a toujours une certaine résistance. Je veux dire, c'est vers là que ça s'en va. Il faudrait peut-être être un peu plus ambitieux ou prévoyant, là, puis voir venir les choses, puis se transformer de cette façon-là.
Pour
aider les gens qui en ont besoin.
Mm-hmm. Alors, pour rappel, on parle avec Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier. À cet effet-là, M. Beaumier, je vous écoute. Est-ce que les gouvernements devraient remettre des subventions très intéressantes pour qu'on se munisse de véhicules électriques au lieu de baisser la taxe sur l'essence?
Bien, à choisir entre les deux, moi, j'irais de ce côté-là. Maintenant, juste offrir une subvention à l'achat, c'est peut-être pas suffisant non plus, parce que encore là, on peut voir que les manufacturiers vont en profiter pour un peu hausser le prix des voitures.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut être un peu plus stratégique dans le type d'aide qu'on va offrir. Est-ce que c'est en fonction de la consommation de la flotte, la taille de la flotte? Il y a certainement des moyens d'agir. Il y a des leviers dont le gouvernement dispose. Et entre baisser des taxes puis offrir une subvention... C'est sûr que je vais aller du côté de la subvention si c'est les seules options qu'on a. Mais certainement, il y a moyen de faire mieux. Mm-hmm.
Ma question additionnelle par rapport à ça, est-ce que le réseau d'Hydro-Québec pourrait justement subvenir si jamais il y avait une hausse drastique de vente de véhicules électriques? Parce qu'en hiver, on me dit de ne pas partir mon lave-vaisselle à 4 heures de l'après-midi.
Oui, ça, c'est un peu de la désinformation, je dirais. Oui, c'est vrai. Dans l'absolu, vous êtes aussi bien de partir votre lave-vaisselle la nuit parce que...
Oui, puis moi, je le programme toujours la nuit. Là, je suis un citoyen modèle, mais c'est juste quand on entend ces avertissements-là d'Hydro-Québec, je me dis toujours, tabarouette, s'il y a 25% plus de véhicules électriques, on va-tu être capable?
Oui, bien, encore là, en théorie, on est capable si on le fait correctement. C'est-à-dire, il faut distribuer... Il faut pas que tout le monde arrive à 5h30 ou 6h à la maison, branche sa voiture, puis tout le monde se recharge en même temps. Là, effectivement, on fait juste déplacer le problème. On va créer une pointe un peu avant ou un peu après celle qui se produirait normalement. Il faut juste mettre en place les bons incitatifs, les bons mécanismes pour s'assurer qu'on distribue cette recharge-là sur la plus longue période possible hors des heures de pointe. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est comment les gens vont se comporter avec une voiture électrique. S'ils peuvent la charger pendant la journée au travail, ben ils n'ont pas besoin de la brancher le soir.
Mm-hmm.
Et là, il faut bien informer les gens, puis éviter aussi. On souffre tous un peu de l'anxiété, de le range anxiety, là, excusez-moi l'anglicisme, mais on a toujours l'impression qu'on va manquer soit d'essence, soit d'électricité, puis on voudra recharger très rapidement notre voiture. Mais si on regarde bien quel est notre profil d'utilisation, on n'est pas toujours obligé de la charger à 100%. Et on peut accepter qu'elle soit chargée sur une... Puis elle n'a pas besoin d'être chargée le plus rapidement possible. Donc, on peut faire en sorte qu'elle soit chargée pendant la nuit avec moins de puissance. Puis à ce moment-là, on pourrait le faire correct. En théorie, tout ça, c'est... Puis même techniquement, tout ça est possible. Mais il faut le faire correctement, bien informer les gens, puis préparer les gens à cette transformation-là.
Monsieur Beaumier, merci beaucoup pour votre présence à l'émission d'Enjeux ce midi. Ce fut très intéressant de discuter avec vous des différentes alternatives qu'on peut avoir pour se débarrasser de ces coûts de pétrole et d'essence qui ne cessent d'augmenter.
Ben, je vous en prie, ça m'a fait bien plaisir.
Merci, au plaisir de se reparler.
Au revoir.
Au revoir. Louis Beaumier, qui est directeur exécutif pour l'Institut de l'énergie Trottier. C'était vraiment intéressant de parler avec lui. Puis malheureusement, on voit que diminuer la taxe, bon, juste, Mathias, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut trouver des solutions alternatives. On se fait complètement pris. On est complètement pris en otage par les grandes compagnies.
C'est fou, raide. Hein? Et là, t'es que ça soit. Fois 5, là.
Ben oui.
Dans certains cas, le groupe Valero, c'est 5 fois plus d'argent.
Puis là, que ça soit dans le pétrole que dans le milieu du véhicule. Parce que quand je lui dis, est-ce qu'on devrait augmenter les subventions pour qu'on se tourne vers l'électrique? Il dit, mais non, ils vont augmenter les prix. Là, je fais quoi? Toujours payer plus cher.
C'est tout le temps ça, des compagnies privées en profitent.
C'est ça. Tu sais comment je suis good vibes only, mais tabarnouche que ça me décourage. Puis c'est essentiel là, d'avoir un moyen de transport pour se déplacer. Alors, non, je suis vraiment, vraiment embêté par ce dossier-là et je trouve ça très négatif pour nous, les contribuables qui payons des taxes, des impôts, puis qui sont pris là-dedans. Il y a de la circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire rapidement, l'avant, direction ouest, entre Taniata et Président Kennedy, toujours bouché. Il y a eu un accident un peu plus tôt qui a créé des difficultés dans le secteur. Guillaume Couture, en direction ouest, à hauteur de Chemin du Fleuve, il y a des travaux dans le secteur présentement pour les prochaines semaines, puis ça crée un fort ralentissement, c'est du pare-choc à pare-choc. En 4, direction sud, hauteur Charret, un petit quelque chose aussi, même chose pour leur ancienne direction sud pour accéder à Capitale. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Merci beaucoup Mathias, on le sait, il y a de la circulation plus sur l'heure du midi, puis c'est fort simple, c'est en raison justement du fait que les gens sont en vacances. Profitez-en parce que je vous rappelle qu'à la météo, c'est 29 degrés ensoleillé pour aujourd'hui, 31 degrés ensoleillés pour jeudi et 29 degrés ensoleillés pour vendredi. Le midi. On parle beaucoup de santé mentale sur les zones de boulevard 102.1. On parle beaucoup d'itinérance également. Comment qu'on peut faire en sorte que les gens se portent mieux? Les jeunes, je voyais qu'au niveau de jeunesse, écoute, il y a une augmentation d'à peu près de 20 % des demandes d'aide le soir. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que l'Association des médecins psychiatres du Québec a dévoilé sa plateforme Santé mentale 2026. Ça tombe à 2 mois pile de l'élection, donc je dois dire que ça tombe très bien. Et on a avec nous la docteure Claire Gamache, qui est justement la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Madame Gamache, merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci de vous intéresser à tout ça.
Ah, faut s'intéresser à la santé mentale, on n'a pas le choix. Moi, petite histoire courte, j'ai eu des problématiques de santé mentale. J'ai fait une dépression majeure qui a mené à une tentative de suicide. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est très, très loin d'être tabou et qui est très important là, dans notre société. Il y a pas
on est d'accord.
Si je vous demandais de résumer les demandes que vous avez justement pour le gouvernement?
En gros, là, on veut que le gouvernement en fasse une priorité, autant dans ses engagements électoraux que dans son prochain mandat. Fait qu'on a proposé 6 mesures phares là pour vraiment s'assurer que ce soit présent là dans les discussions préélectorales. Puis la première, c'est d'avoir un ministre complètement dédié ou une ministre là, complètement dédiée à la santé mentale pour s'assurer que le gouvernement comprend bien à quel point.
Je suis tellement d'accord avec vous. Je me dis, si on a un ministre de l'Éducation puis un ministre de l'Enseignement supérieur, on est capable de séparer la santé aussi en deux. Surtout que le département de la santé, puis là, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, là. Mais tu sais, c'est quand même une très grosse structure, un gros mammouth qui bouge pas vite. Fait que si on est capable de mettre la santé mentale dans une structure plus efficace et flexible, là, ça va tellement aider.
Oui, puis qui va être capable de nommer à ses collègues, c'est pourquoi, absolument pourquoi il faut qu'on s'en occupe, puis pourquoi, parce que c'est tellement transversal. On en a dans les prisons, on en a dans les centres jeunesse. C'est 50% des visites chez le médecin de famille. Fait qu'il faut absolument que dans la première ligne, là, il y a vraiment des choses de mise en place pour qu'on s'occupe de santé mentale rapidement.
Votre deuxième constat, c'est prévenir l'itinérance. Parlez-moi de ça. C'est un sujet qu'on parle ici dans la région de la Capitale-Nationale à peu près à chaque jour parce que notre centre-ville Saint-Roch, malheureusement, vit une crise de l'itinérance sans précédent.
En fait, c'est partout au Québec. Hein. Sainte-Adèle sortait, je pense, que dans les médias ce matin en disant qu'ils vont ouvrir un refuge à Sainte-Agathe. Donc, c'est partout. Ça fait partie d'une trajectoire, l'itinérance. Hein. On décide pas du jour au lendemain qu'on devient itinérant. C'est parce qu'on perd notre logement, c'est parce qu'on sort de prison, c'est parce qu'on sort du sein de jeunesse puis il n'y a pas de filet. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que le système actuellement produit de l'itinérance. Fait qu'il faut absolument que dans tous ces endroits-là de trajectoire, on ait des façons là, de rendre les équipes imputables puis qu'on ait des logements sociaux disponibles. James Hughes l'a dit ce matin, là, si le parc de logements, on avait un 20 % de logements sociaux, ça coûterait beaucoup moins cher que ce que ça coûte là, une fois que quelqu'un est itinérant. Puis ce qu'on dit aussi, c'est que les psychiatres doivent participer, puis on le fait déjà, là, à des programmes de réaffiliation en itinérance pour les gens qui sont déjà dans la rue pour solidifier un peu leur fragilité de santé mentale puis s'assurer qu'ils ont un soutien au logement.
Oui, des programmes comme le programme PRISME, le programme porte-clés qu'on a ici, là, justement, à Québec, qui fonctionne très bien.
Hey, c'est aussi.
Ouais, c'est fait. Jusqu'à 90 % de taux de réussite. Ça, je trouve ça exceptionnel. Neuf.
Exactement. Fait qu'une fois qu'on est tous en équipe puis qu'on collabore tout le monde ensemble puis qu'on traite les problèmes de santé mentale puis les problèmes de dépendance, les gens retournent en logement puis ils restent. Il faut absolument travailler ça.
Il y a un tabou que j'entends beaucoup dans la société qui est si on n'avait pas fermé des centres comme Robert Giffard, puis là, je vais prendre le terme que tout le monde comprenne, là, si on n'avait pas fermé les asiles, il y aurait moins d'itinérants. Mais moi, je regarde, là, je viens du milieu communautaire. On avait des groupes de travailleurs, justement, qui venaient du CRPQ, qui venaient faire de l'entretien ménager, qui retournaient dans des maisons supervisées. Il y avait des lieux sociaux, l'estime de soi augmentait. Je ne suis pas certain, moi, qu'on était tellement dans la réussite si on regarde il y a de cela 30 ans.
Absolument. Puis en fait, il faut savoir que les gens consultent beaucoup plus qu'avant. Là. Fait que c'est sûr que les asiles, si on se mettait à mettre les gens là, ça finirait plus. Là. Ce serait immense. L'autre enjeu, c'est qu'on veut faire des choses à l'extérieur des hôpitaux. Nous, ce qu'on propose, là, c'est vraiment des alternatives à l'hospitalisation. Puis il faut être positif. Puis James Hughes l'a aussi dit ce matin, il y a plein de gens qui vivent déjà en ressources de santé mentale et qui vivent très bien parce qu'ils ont des endroits où on a un programme de soutien au logement. Il y a des équipes interdisciplinaires qui sont là pour les soutenir. Fait qu'il y a déjà plein de gens avec des troubles mentaux graves qui vivent dans des appartements supervisés ou des ressources où ils sont très bien. Fait que c'est pas vrai que l'asile, c'est la solution, vraiment pas.
On parle d'itinérance, mais il y a un point dans votre communiqué qui a attiré mon attention parce qu'on parle beaucoup de la problématique de main-d'œuvre dans le milieu de la santé. 25 millions d'heures de travail qui ont été perdues au sein du réseau de la santé en raison de problèmes de santé mentale du personnel. 25 millions d'heures. Voyons donc, ça me semble beaucoup, là.
C'est 35 % des invalidités de courte durée qui sont pour des problèmes de santé mentale. Des épuisements professionnels, des dépressions, des troubles anxieux. Puis quand on parle des longues périodes, là, des invalidités long terme, c'est 50 % pour des problèmes de santé mentale. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à comment on soutient le personnel dans une très grosse organisation comme Santé Québec. Là. Dans les entreprises, là, il y a plein de choses qui sont faites. Puis dans notre système de santé, on n'est pas les meilleurs là, pour s'occuper de nos travailleurs. Fait qu'il faut, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un observatoire pour voir ce qu'on fait bien puis s'assurer qu'on le fait vraiment de mieux en mieux parce que bénévole, là, l'assureur, il n'en peut plus là, de payer pour
ben
ça.
Ben non. Puis voyez-vous, moi, je travaille dans le communautaire puis j'ai participé à la mise sur pied du projet Ricochet qui était un projet justement où on offrait des séances avec des psychologues, des massothérapeutes, des physiothérapeutes gratuits à des employés d'organismes communautaires qui n'avaient pas justement d'assurance parce qu'on s'était rendu compte de ça, là, qu'au niveau là, de la santé mentale, c'était facilement, là, pratiquement une absence sur deux dans le domaine communautaire qui était reliée à la santé mentale.
Oui, c'est exigeant de s'occuper de la détresse humaine, hein, on le sait tous.
Vraiment.
Comment faire en sorte qu'on a des gestionnaires de proximité, qu'on est capable de s'engager, qu'on respecte le sens de notre engagement, parce qu'on est tous là parce qu'on veut soigner les gens puis on veut être présent pour eux. Fait qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on organise notre travail pour garder ce sens-là.
Je termine l'entrevue en parlant de prévention du suicide, un sujet qui me tient très à cœur, notamment chez les jeunes, parce que dans votre communiqué, vous le dites, le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide a triplé entre 2010 et 2023, Mathias, chez les jeunes filles de 10 à 14 ans. Ah, comment qu'on fait pour améliorer notre prévention?
En fait, il faut qu'on travaille sur la consommation des médias sociaux puis des écrans.
Ah,
les
oui.
jeunes filles sont très, très sensibles à la comparaison sur les médias sociaux, à l'intimidation, la cyber-intimidation, à l'isolement. Il faut absolument travailler sur l'assiduité scolaire. Fait que dès qu'un jeune arrête de venir à l'école, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on s'assure qu'on regarde pas nos médias sociaux jusqu'à 3h du matin puis qu'après ça, on devient complètement dysfonctionnel. Puis nous, ce qu'on demande, c'est des équipes psychosociales partout dans les urgences psychiatriques. Parce qu'hospitaliser ces jeunes filles-là, c'est pas la solution. Il faut qu'on travaille sur qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe avec les amis, pour s'assurer qu'on répond à ce qui se passe plutôt que d'hospitaliser ces jeunes filles-là puis les isoler davantage, puis les stigmatiser davantage.
Dr. Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Continuez votre excellent travail. C'est important de prendre soin de la santé mentale des gens. On va être une société plus forte si on s'entraide les uns les autres. Puis merci pour votre excellent plan d'action. Moi, si j'étais un chef de parti politique, Mathias, je ne veux pas donner d'idée à Paul Saint-Pierre Plamondon ou à Christine Fréchette, mais je prendrais le communiqué que j'ai là devant moi, là, je l'appliquerais.
Directement.
Excellent. Ce serait ça mon plan.
Pour en parler avec eux.
Excellent. Parfait. On va s'organiser pour qu'ils vous parlent. Puis si jamais je me présente comme premier ministre, là, je vous nomme ministre responsable de la santé mentale.
Merci. Puis prenez soin de vous. Là.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut bien. Bye.
Docteur Claire Lamarche. Hey, ça, c'est un plan d'action concret. C'est un plan d'action efficace. Puis c'est un plan d'action qui vient du terrain. Là, amis politiciens, venez pas me scraper ça, là. C'est la plus grosse problématique en santé présentement au Québec, la santé mentale.
Soyons connectés avec le terrain pour une fois.
Exactement.
Reconnectons-nous avec des personnes qui exercent pour de vrai concrètement sur le terrain.
Ben oui. Puis, en termes d'employeur, le gouvernement, il n'y a pas de leçon à donner à personne. S'il y a 25 millions d'heures travaillées qui sont perdues en santé mentale.
Hey, tu réalises-tu, là, avec ce 25 millions d'heures, fini la pénurie de main-d'œuvre? On n'en parle plus.
Ben non! Hey, ça. Quand t'as nommé le chiffre.
25 millions
d'heures. Moi, je vais t'avouer, quand j'ai lu le communiqué, j'ai accroché sur tentative de suicide chez les jeunes. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Là, quand t'as nommé le chiffre, j'ai dit, ben voyons donc, il a dû se tromper, quand même. Je suis allé revoir dans le communiqué. Je dis, ben non, il s'est pas trompé.
Ben ouais, non, mais je l'ai lu trois fois avant aussi de bander. Hein. J'étais comme, c'est 25. Non, c'est 25 millions d'heures.
Aïe, 25 millions d'heures.
T'imagines-tu, on remet ça dans la machine. Hospitalière dans la machine de la santé, c'est 25 millions d'heures. À quel point le service, il est 20 fois mieux.
Vous en pensez quoi de ce plan d'action-là? Moi, ça m'a charmé, mais je le sais que j'ai un côté très ouvert envers la santé mentale, puis je veux vraiment qu'on prenne ce dossier-là en main au Québec. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Êtes-vous aussi emballé que moi et Mathias Turcotte? Puis voulez-vous que le gouvernement fasse exactement ce programme-là. Puis tiens, on a oublié faciliter l'accès aux soins et renforcer la téléconsultation et la télémédecine. Tabarouette que c'est un bon plan, ça. Textez-nous, 418-971-1021. Au retour de la pause, Mathias, il faut que je te parle du chroniqueur de la fraise.
Ah ben oui!
J'ai assez hâte. Vincent Brousseau-Pouliot qui s'est posé la question. On devrait-tu payer avec nos fonds publics le toit sur le stade de tennis?
Hey, rappelle-moi, il se situe où, ce stade-là?
À Montréal.
Ah,
OK. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai retrouvé les écrits de Vincent Brousseau-Pouliot sur le troisième lien. Puis sur le centre Vidéotron.
OK, les deux!
Les deux!
Bon.
Je suis tellement emballé de vous en parler. Montréal versus Québec. Ce qui est bon à Montréal n'est pas bon pour Québec.
On en jase.
Je préviens, on jase.
Oh que oui, on jase ici à Boulevard 101 sur l'heure du midi. On vous parle de sujets qui vous touchent. Marianne, merci pour ton texto. La santé mentale, c'est aussi précieux et même plus que la santé physique. c'est clair que c'est aussi précieux. Dans mon cas, j'essaye vraiment de conserver les deux. Je vais au gym 4 fois par semaine. Ça fait du bien à ma santé mentale aussi. Fait qu'il y a vraiment un lien à faire entre la santé physique et la santé mentale. Mais c'est clair, moi, pour l'avoir vécu, une dépression majeure, quand la santé mentale prend le bord, là, oh, que tu deviens un être humain pas agréable.
Mais pis c'est drôle, ça. J'ai l'impression que c'est plus difficile à comprendre ça que, tu sais, mettons, santé physique, là. Quelqu'un qui a pas de jambe. T'imaginez pas de jambe.
Ben oui.
C'est comme un crime. Hey, ce serait plate, je pourrais pas marcher chaque jour. Mais quand t'as une bonne santé mentale, c'est difficile de s'imaginer à la place de quelqu'un qui est dans dépression. Tu sais, on a. Il y a quand même encore beaucoup de jugements sur ça dans la société en général. Parce que c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est dans cette situation-là.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque coup que je parle de santé mentale, j'ai toujours un retour positif. Je dis toujours, quand j'en parle pour essayer d'aider au moins une personne. Si j'aide une personne, mon travail est fait. Et cette semaine, quand j'ai parlé justement que j'avais travaillé sur mes problèmes d'impulsivité, il y a un auditeur qui m'écrit sur Messenger et me dit « Hey, envoie-moi donc l'organisme. » Il dit « Je vis ces problèmes-là, moi. » Et je vais y aller au même organisme que
toi. Ton message a été passé.
Moi, dans ce temps-là, je fais « Wow! » Fait que comme ça, je suis rendu à peu près à 30 de personnes dans ma vie.
Hey, c'est déjà bon. Là.
Qui m'ont texté pour me dire « Hey, Jeff, sais-tu quoi? Ça file pas, moi non plus. » Puis « Hey, des pensées suicidaires. » T'as qui le psychologue que t'avais vu?
Hey, d'avoir réussi à faire une différence de même dans la vie d'une 30 de personnes, c'est beau. Là.
Fait que c'est pour ça que je continue à en parler. C'est drôle parce que l'autre jour, ma blonde me l'a demandé, elle dit « Pourquoi t'en parles autant? » Puis j'ai dit, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça parler de moi-même. Honnêtement, des fois, ma blonde, elle dit « Tu me parles à peu près jamais de toi. » Mes enfants, même chose. Mais on dirait qu'à la radio, vu que je suis pas devant quelqu'un, je suis pas pareil. Faudrait que je me pratique en personne. Là. Mais tout ça pour dire que j'ai dit « C'est simple, c'est juste pour aider le monde. » C'est juste pour ça que j'en parle.
Quand plus qu'on en parle, moins que c'est tabou.
Exactement. Fait que j'ai dit c'est juste pour aider le monde. Puis c'est ça. Fait que ça fonctionne. Puis je suis bien content. Alors prenons soin de nous. Puis à souhaiter que le gouvernement va vraiment écouter l'Association là, des médecins psychiatres du Québec parce que leur plan d'action est écœurant. Puis en passant, si jamais, quand t'as qu'à parler de santé mentale, si jamais vous avez un médecin à un moment donné qui vous dit « Hey, je pense que t'aurais besoin de médication » puis que là, vous faites « Ah non, j'en veux pas de médication, ça n'a pas d'allure, tata. » Moi, j'en prends chaque jour de la médication pour ma santé mentale, pour contrer justement mon stress et mon anxiété. Ça fonctionne. A1, le seul problème de cette petite pilule-là, c'est qu'elle me donne un petit 10-15 livres de trop. Fait que c'est pour ça que je vais au gym.
Fait que tu compenses.
Je compense, puis j'ai arrêté de me peser.
Hey, ça, c'est une bonne chose, par contre.
Ben oui, parce que là, je stressais.
Quand t'as des...
J'avais une pilule pour régler mes problèmes de stress puis d'anxiété, mais je stressais parce que la pilule me fait engraisser. Et à un moment donné, j'ai dit « OK, c'est assez. »
Puis je veux dire, à partir du moment où t'as des saines habitudes de vie, que tu manges de façon convenable, que tu bouges un peu, quand ben même que tu sois, que t'ailles un peu plus de poids que ce que tu voudrais... C'est sain quand même. Là.
Hey, Camille qui nous écrit « Je suis intervenante de crise en santé mentale et régulièrement dans mes suivis, je compare une crise en santé mentale à une fracture ou une entorse au niveau physique pour permettre aux gens de mieux accepter le fait qu'ils doivent prendre soin d'eux et que c'est normal qu'ils le fassent. » J'adore Camille parce que vois-tu, moi, ma dépression majeure de 3 mois, là, j'aurais comparé ça vraiment à une fracture du fémur. OK. Oui. Parce que ça fait mal en crime, puis t'avances pas pantoute. Mais ça se guérit.
Mais tu sais, c'est ça qui est fou, là. Puis tu parlais de, mettons que tu vas voir le médecin, puis qu'il te dit, hey, il faut que tu te médicamentes, puis tout. Moi, je sais que si. Puis je suis chanceux, ma santé mentale, se passe très bien pour l'instant, puis vous me direz, t'as pas beaucoup de raisons.
Ouais, ça se passe mal, mais. T'as 22 ans,
c'est ça, exactement. Mais pour de vrai.
On vient de parler des jeunes filles de 10 à 14 ans qui veulent se suicider.
Mais pour de vrai, je suis chanceux, ça se passe bien. Mais je me connais, là. Si j'allais dans un bureau du médecin parce que ça va moins bien, puis qu'il me dirait, il faut que tu prennes des médicaments. Hey, là, mon orgueil embarquerait un peu.
Ah, c'est clair.
Je le sais, je me dirais, hey, voyons donc, c'est pas si pire que ça. Voyons, je suis fait plus fort que ça. Je me connais, je sais que j'y réagirais comme
et
ça.
Et moi, j'en ai connu des gens dans mon entourage qui m'ont dit, je l'ai refusé. Puis j'ai dit, pardon, t'en rappelles ton médecin, t'apprends. Puis je leur ai expliqué tous les bénéfices. Puis ils ont fait, OK. Mais c'est normal. Puis moi, honnêtement, je le sais que je l'ai accepté Parce qu'au moment où ma médecin de famille me l'a proposé, j'étais à terre. Là. Je venais de faire ma tentative de suicide.
T'avais pas
là,
le choix. Il fallait trouver une solution.
Oui, oui, puis ça, je vais te dire, elle m'a pas vraiment laissé le choix. Là. Elle dit, là, ta prescription, sac ton camp. Non, c'est pas vrai. Elle a pris soin de moi de façon impeccable. Mais c'est ça. Puis là, ben, avec le temps, j'ai compris. Parce qu'on a déjà essayé avec ma médecin à un moment donné de diminuer de beaucoup. Puis ça n'a pas fait. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, hey, gars, on va régler ça. Là. On va prendre ma petite pilule, puis ça va être bien correct.
On va régler ça.
On a fait un test, puis c'était bien correct. Audrey qui me demande quel médicament c'est du... Il me semble que c'est du citalopram que je prends.
Puis tu sais, pour être honnête, Jeff n'est pas expert, je ne suis pas expert. Puis le médicament que Jeff prend, ça ne veut pas dire que c'est bon pour un de tes proches. Fait que consulte le médecin, puis le médecin va vraiment être la bonne personne là, pour recommander ce que ça prend.
T'as entièrement raison. Hey, je veux qu'on prenne les dernières minutes de l'émission pour parler de Vincent Brousseau-Pouliot, ce chroniqueur de la presse qui nous dit aujourd'hui qui doit payer le nouveau stade de tennis à Montréal. Un stade de tennis pour un tournoi d'une semaine. Vous allez me dire, si on met un toit, ça peut devenir un beau centre d'entraînement. En effet. Alors, il nous étale ses pour et ses contre. Donc, je te les fais en résumé. Contre, parce qu'en théorie, le contribuable devrait jamais ou à peu près financer l'industrie du sport professionnel parce qu'ils font beaucoup de profits. On est d'accord avec ça?
Oui.
C'est un beau compte. Contre, le sport professionnel est une industrie extrêmement rentable. Bon, les athlètes gagnent des millions. Ça faisait partie du même. Au tennis, demander des fonds publics est d'autant plus particulier que plusieurs des meilleurs joueurs choisissent de vivre dans un paradis fiscal. C'est le cas d'Alexandre Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur et Daniil Medvedev qui vivent à Monaco, un paradis fiscal, et qui sont les quatre meilleures têtes de série. Donc, je trouve que ces comptes ont bien de la
lueur. C'est des bons points contre.
Ouais. Exactement. Bon, puis là, il faudrait rajouter que le tournoi est juste d'une semaine.
Quand même un gros contre. Ça.
C'est ça. Pour le Québec compte peu de très grands événements sportifs internationaux. Les deux plus grands sont l'Omnium de tennis puis le Grand Prix des F1. Pas sûr que l'Omnium de tennis passe en deuxième, mais bon. L'Omnium de tennis est l'un des 15 tournois du tennis les plus prestigieux du monde et ne reçoit aucune subvention annuelle du gouvernement, contrairement à la F1 qui reçoit 21,7 millions.
Non, ben non.
Ouais, c'est parce qu'il y a des retombées économiques de la F1, c'est en centaines de millions.
Voyons, tu peux pas
dollars.
Comparer les deux.
Mais non. Lorsqu'il a fallu refaire les paddocks de la F1 en 2019, la facture de 75 millions est assumée par les fonds publics, oui, payée en une année par les retombées économiques. Et sans fonds publics, Montréal aurait perdu son tournoi de tennis au milieu des années 90, parce qu'en 96, on a payé entre 20 à 25 millions de fonds publics. Et pour le tournoi de Rome, les contribuables italiens ont payé la totalité de la facture de 160 millions d'euros. Alors, sa conclusion, il faut malheureusement se rendre à l'évidence. Si on veut garder ce tournoi à Montréal, les gouvernements devront assumer une partie du coût du nouveau stade. Ça, c'est Vincent Brousseau. Il couvrait les activités de Québec pour la presse à l'époque du Centre Vidéotron, puis il faisait beaucoup d'articles du genre « Ah, la Ville de Québec a perdu 5,8 millions de dollars avec l'amphithéâtre depuis son inauguration en 2015. » Et ça, c'est un article datant du 27 juillet 2018. Mais où c'est le plus drôle? C'est une chronique qu'il a fait le 17 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on peut se payer avec un troisième lien?
Okay.
Ah! Là, Vincent Brousseau-Pouliot, qui est à Montréal, dit « Hey, là, cher contribuable, comme on fait pour le toit du stade à 1 milliard, c'est plate, mais va falloir payer pour le stade de tennis. Mais pour le troisième lien, non, parce que 10 milliards avec ça, on pourrait se payer 1,26 REM. »
OK. Fait que dans le fond, lui, sa solution, c'est qu'est-ce qu'on peut... Ah, le troisième lien coûte cher. Qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir ici à Montréal?
On va s'offrir plus de REM à Montréal. Ouais. Bon, il pense un peu à province en disant 67 budgets de rénovation de construction des écoles pendant 5 ans. Et ça, on va pouvoir en faire un petit peu partout. 59% du budget des routes pendant 5 ans. 1,4 fois le budget du transport collectif pendant 5 ans. Donc, est-ce que c'est un projet rentable? Non, il ne faut pas construire le troisième lien. Fait que quand c'est à Québec, quand c'est un besoin qu'on a à Québec, les médias montréalais, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Québec, manger de la colle, la capitale nationale ». Mais quand c'est pour des petits besoins d'un tournoi de tennis d'une semaine, qu'est-ce qu'ils font les médias montréalais?
Ah, ben faut y aller
à
fond.
« Hey, la gang de Québec, payez ça! »
Moi, ce que je trouve drôle, c'est la façon qu'on a comparé les deux. Là, le troisième lien, on l'a comparé à des projets concrets qu'on pourrait faire à la place du troisième lien. ça a été ça, la logique. Ouais. Pour le toit de Montréal, la logique, c'est « Hey, on met de l'argent dans le Grand Prix de la F1. » On pourrait en mettre pour le tennis aussi.
C'est ça, exactement. C'est drôle, tu sais, le toit de tennis, là, ben là, Tennis Canada cache les coups, là, t'es belle transparence de Tennis Canada, c'est super. Mais pour le toit, là, supposons qu'on arrive à 400, 500 millions, ben tabarouette, on pourrait faire 10 écoles avec ça.
On pourrait faire pas mal d'écoles, on pourrait mettre pas mal de budget sur nos routes, ben, on pourrait en mettre pas mal dans le système de santé aussi.
On pourrait éponger le déficit du transport en commun, crime, pour prendre les arguments de Vincent Brousseau-Pouliot. Crime, 500 millions, là, on pourrait créer justement des logements sociaux avec ça.
Hey, puis tant qu'à vouloir prendre de l'argent de Québec puis l'amener à Montréal, on va faire le contraire. Prenons de l'argent de Montréal puis l'amenons à Québec.
Ouais.
On a l'Hôtel-Dieu de Québec là, qui a besoin d'amour.
Ben,
là.
C'est ça.
Hey, à la place du toit du stade de tennis,
on pourrait donner un peu d'amour
à l'Hôtel-Dieu de Québec.
T'as donc bien raison. Hey, on va se payer le pont à étagement, le Bonneuf?
Pourquoi pas?
Hey, c'est une phase 4 de promenade Samuel de Champlain, ça?
Hey, on ramène tout. L'argent qu'on veut investir à Montréal, on en ramène ici.
C'est ça
la logique des Montréalais.
Si j'écris ça à Vincent Brousseau-Pouliot, il va me dire quoi? Ben voyons donc, j'en ai rien à cirer de tes besoins. C'est les miens que je veux. Les miens à Montréal. Pourquoi tu prends mon argent de mon stade pour l'investir à Québec?
C'est la même logique. Tu sais, c'est la même logique qu'on parlait avec le bloc tantôt.
Oui.
De son bord, c'est correct de dire, hey, vous investissez de l'argent pour vous autres, c'est inacceptable. Nous autres, on n'en profite pas. On veut ramener ça dans notre ville pour faire ci. Par contre, quand c'est des projets qui profitent uniquement la ville, là, on est prêt à mettre n'importe quel argent pour n'importe
Exactement.
Quel coût. Je rappelle, on ne connaît pas les coûts pour ce projet-là. Puis pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Il va falloir en construire un, toi.
Oui, puis t'as-tu vu l'entourloupette qu'ils ont faite à Montréal aussi la semaine passée? Quand ils ont nommé le site des Jeux olympiques pour les 50 ans, un site patrimonial, là, c'est pas le bon terme, mais c'est ça quand même, là, pour être sûr qu'on continue à payer pour le stade olympique jusqu'à la fin de notre vie.
Que ce soit les subventions.
Ouais. Hey, on met 1 milliard dans le toit d'un stade qui sert à rien. Puis là, ben, vu qu'on a mis 1 milliard dans le toit, on se dit « Ah ben là, on va le rénover. » Puis on va attirer des artistes internationaux. C'est une boule de béton.
Hey, ça sonne-tu mal dans ce stade-là?
Mais c'est une boule de béton. Je veux dire, moins que tu fasses des rénovations, coûte 1 milliard de dollars et encore là.
Quel artiste de nos jours voudrait jouer, là?
C'est
ben
ça.
Bien honnêtement.
On pense attirer Taylor Swift.
Aller jouer dans une canne de concert, je suis pas sûr que ça l'intéresse.
Êtes-vous surpris, 418-971-1021, que Montréal pense juste à elle puis que Québec, on mange toujours la traite dans les médias montréalais? Moi, pas du tout. Dernière pause du show, on revient avec la conclusion. Toujours un bonheur de faire de la radio avec vous à Boulevard 102.1. L'émission N'enjase sera à sa fin. Je vous rappelle, c'est le retour de Gravel qui suit à 14h. Et soyez-y parce que moi, là, à 17h, je suis là. Je suis branché pour écouter justement l'entrevue avec Kevin Owens, le lutteur québécois. Qui a gravité avec la NSPW ici à Québec, qui a fait son retour après 17 mois. Grave blessure au cou. On lui a fusionné deux vertèbres dans le cou. Il est revenu à SummerSlam dimanche dernier devant une foule en délire. Alors, Denis paye un trip, mais ça va être un trip pour vous aussi, chers auditeurs. Ça va être très, très, très intéressant comme... entrevue. Mathias Turcotte, on se reparle demain?
À demain.
Yes! Toujours un bonheur de faire de la radio avec toi. Denis Gravel s'amène avec Véro et Audrey Pinchot.
Ne manquez pas le retour de Boulevard dans quelques minutes à Boulevard 102.1.
Plus le goût d'entendre?
Maman!